Et les problématiques, bah, c'est finalement à la fois garder la personne, mais aussi la positionner en fonction du coup de ses compétences, celles qu'elle a à l'instant T, mais aussi du potentiel à développer. Voilà.
Okay.
Et ça, aujourd'hui, ça devient une vraie clé, en fait, puisque bah, les collaborateurs souhaitent vraiment avoir des perspectives et un parcours, finalement, expérientiel dans l'entreprise.
Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Trimoji, l'assistant soft skills intelligent pour sécuriser les recrutements et la mobilité interne. Je suis Aurélien Guillon, passionné par la tech et les sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans dans le conseil en management et innovation, je pars à la rencontre de recruteurs, de managers et de DRH pour comprendre comment ils recrutent, onboard, encadrent et inspirent leurs équipes au quotidien. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de Future of Work.
La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Graziani. Salut Virginie.
Bonjour.
Ça va bien?
Très bien, merci de m'accueillir.
Bah, avec plaisir. Je t'accueille dans les locaux de Trimoji à Lyon. Première fois que j'enregistre un podcast en direct comme ça, on est dans la cuisine. Toi, Virginie, t'es experte en gestion des talents.
Mm-hmm.
Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, donner ton parcours, tu peux prendre ton temps. Voilà, parce qu'on travaille sur un podcast qui est sur un format long et les gens, en général, ont l'habitude d'écouter le truc jusqu'au bout. Et de faire leur sport, j'imagine, ou d'aller faire leurs courses, ou de faire des longs trajets en voiture. Donc, tu peux expliquer d'où tu viens, ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui.
Ok, je vais peut-être commencer par ce que je fais aujourd'hui, puis après j'expliquerai d'où je viens et comment je suis arrivée là du coup. Alors, bah, aujourd'hui, donc, j'ai créé et j'anime la société Apostrophe depuis 14 ans maintenant, et j'interviens sur trois volets d'activité. C'est pour ça qu'effectivement, le terme qui me convient le mieux, c'est la gestion des talents, puisque je vais intervenir pour le recrutement, donc notamment au travers de la chef de tête, plutôt de cadres dirigeants, plutôt pour des clients industriels dans ces cas-là. Ensuite, je vais intervenir sur l'évaluation des compétences et du potentiel, notamment au travers d'une méthodologie qui s'appelle l'Assessment Center. Tout simplement, c'est de la mise en situation professionnelle qui va nous permettre de reconstituer des scènes de la vie courante, quotidienne, au travail, j'allais dire, et qui vont nous permettre de travailler avec la personne, de voir quel est son mode de fonctionnement et d'analyser tout un tas de compétences plutôt transverses, de type compétences soit personnelles, d'organisation, relationnelles aussi, et puis tout ce qui va être managérial et leadership. Et puis le dernier volet sur lequel j'interviens, c'est après l'évaluation, le développement de compétences et de potentiel, où j'interviens soit au travers de formations, toujours avec beaucoup de mise en situation, soit au travers de coaching. Et là, l'idée, effectivement, mes deux, on va dire, thématiques un peu piliers, c'est à la fois le management et la communication, communication verbale, mais aussi non-verbale, parce que je suis une passionnée du comportement humain et je suis formée depuis plus de 10 ans à plusieurs disciplines du langage corporel. Et voilà, pour moi, c'est la communication globale, c'est le verbal et le non-verbal.
Ok, donc il faut que je fasse hyper gaffe à ce que je dis et comment je le dis, quoi. C'est ça?
Non, ça va, je pense que si t'es cohérente, t'iras bien.
Ouais, ok.
Pas de peur à avoir.
T'analyses les gens, t'as une déformation professionnelle ou pas?
Un petit peu, oui. C'est clair qu'effectivement, il y a des fois où je regarde des choses parce que j'ai cet œil-là et que forcément, je vais un petit peu plus porter mon attention là-dessus. Des fois, pas du tout. Je sais aussi me mettre en off, heureusement, parce que sinon, ça serait épuisant. Ça demande beaucoup d'énergie, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que, par exemple, je suis formée à l'analyse de la démarche et c'est vrai que si je marche dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui passe devant moi, souvent, je vais continuer à m'exercer et m'entraîner.
Ah ouais? Oui. Tu peux analyser la démarche de quelqu'un qui marche dans la rue?
Oui, tout à fait. Ouais. L'analyse de la démarche, ça va très, très loin. Ça te permet vraiment de voir comment toute la personne s'est construite et comment elle est aujourd'hui. Comment elle va faire face à l'imprévu, ça, tu peux également voir tout ce qui est relation à ton père, ta mère, enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se voient dans la démarche.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, c'est hyper intéressant.
Voilà, mais j'essaye de faire attention et j'essaye d'avoir ce mode off, parce qu'effectivement c'est très preneur, et je t'avoue qu'en apéro, en week-end ou en vacances, j'ai pas forcément envie de regarder toujours tout le monde, même si des fois on me le demande, dès que bien sûr je parle de mon métier, c'est sûr que ça peut faire naître des envies et des besoins face à moi, voilà.
Ah bah ça c'est cool, toujours intéressant en tout cas. Ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de gens qui aiment bien plus de connaissances de soi, se connaître, machin, ou en tout cas avoir le regard extérieur de quelqu'un pour valider ou invalider ce qu'il pense d'eux-mêmes.
Mm-hmm, c'est
et,
vrai.
Et toi, t'es spécialiste là-dedans, on va y revenir après. Et du coup, avant apostrophe, tu faisais quoi ?
Alors, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours été consultante en ressources humaines, en fait.
Okay.
Toujours dans des cabinets de conseil. J'avais pas du tout prévu de faire ça pourtant à la base. Je suis tombée dedans dans mon premier stage en fait. Au départ, je voulais faire du commerce international. J'avais une envie de m'expatrier, mais pas partir en vacances, vraiment d'aller travailler à l'étranger. Donc j'ai fait des études de commerce international, ce qui fait que j'ai fait 7 ans à l'étranger au travers au départ de mes échanges universitaires, de mes stages. Puisque dans des études de commerce international, toutes les missions, stages, etc. sont à l'étranger. Et puis, comme je te le dis, je suis un peu tombée par hasard dedans, voilà. Et j'ai démarré ma carrière à Prague, en République tchèque, dans un cabinet conseil RH.
Ah ouais, ok, voilà. D'accord. À Prague.
À Prague, exactement.
Ok, tu parles la langue ?
Alors, je parlais, j'avoue que j'ai beaucoup perdu, mais oui, c'est vrai que... Alors, je travaillais principalement en anglais et en français.
Ouais.
On était un cabinet donc tenu par un français, enfin dirigé par un français, donc on était effectivement assez bien... connu et reconnu sur le marché comme étant le cabinet qui recrutait des Français, des expats, un peu tous les profils internationaux, on va dire, mais aussi des profils tchèques. Et effectivement, je suis restée là-bas pratiquement 4 ans. Donc oui, ça devenait important. Puis c'est important pour moi de toute façon de parler tchèque aussi, même si je travaille principalement en anglais. Et en fait, c'est une mission qui m'a fait vraiment plonger dans ce métier-là, puisque j'étais arrivée en fait sur un poste de marketing stratégique. On se posait beaucoup de questions, à la fois sur nos enjeux au niveau du cabinet. Donc, c'était une activité que je ne connaissais pas du tout. Tu sais, quand tu es jeune diplômé, le cabinet de recrutement, tu ne connais pas normalement. On va dire qu'ils approchent des profils un peu plus seniors. Donc, moi, je ne connaissais pas du tout. Et voilà, il y avait tout un enjeu. Alors, il faut remettre les choses en contexte. Il n'y avait pas de chômage à Prague à l'époque. Les Tchèques quittaient leur emploi, trouvaient un poste avec 10% d'augmentation dès le lendemain ou 3 jours après. Voilà.
D'accord.
Donc c'était vraiment une période de croissance assez, assez dingue en fait, que j'ai jamais connue en France finalement. Et en fait, on avait à l'époque un très gros client qui s'appelait Carrefour, voilà, Carrefour République Tchèque, qui cherchait à s'implanter, enfin qui était en train de s'implanter. On les accompagnait dans le cadre de leur recrutement. Et en fait, Carrefour avait d'énormes difficultés à retenir ses talents déjà à l'époque. Tu vois, je te parle de ça, c'était plus d'une vingtaine d'années. Comme quoi, ça revient au goût du jour. Et mon patron à l'époque est venu me voir en me disant, il faut faire une étude, il faut savoir ce qui se passe, parce que ça coûtait bien sûr très très cher à Carrefour à l'époque, t'imagines bien. On recrutait à tour de bras pour eux, et puis les collaborateurs partaient très très vite, ils prenaient un peu de formation, et puis ils allaient chez un concurrent. Et donc du coup, comme j'étais venue faire cette mission marketing stratégique, j'étais un peu les seules à avoir ces compétences d'échantillonnage, de création de questionnaires, d'administration de questionnaires, de restitution, etc. Et donc, du coup, je me suis vu confier l'équipe des consultants qui travaillaient pour Carrefour. Et on a mené à l'époque, moi, je n'étais pas du tout consciente de ça, mais on a mené un audit RH, en fait, au sein de Carrefour. Voilà, pour faire des recommandations, etc. Et au cours de cette mission, en fait, tout simplement, plusieurs de mes consultants avec lesquels je travaillais, du coup, parce que je me suis retrouvée à encadrer cette équipe de consultants, qui m'ont fait des retours.
Il y a combien de personnes ?
Il y avait 7 consultants pour Carrefour. Plus on avait 2-3 personnes plutôt en saisie, administration, des choses comme ça.
Okay.
Et en fait, j'ai 2-3 de mes consultants qui m'ont dit « Ah, mais Virginie, tu ferais une bonne consultante, ça ne t'intéresse pas et tout. » Et puis, je me suis dit « Tiens, ça m'a interpellée en fait, ce retour, ce feedback sur moi. » C'est pour ça que je suis sensible au feedback, certainement, que j'en ai fait mon métier. Et je me suis dit « C'est pas anodin, c'était pas un truc entre deux portes, tu vois. » C'était vraiment... Et je me suis dit « Tiens, j'ai envie d'y réfléchir. » Et puis, j'avais la chance aussi d'être à l'étranger. Et j'ai été voir mon patron, j'ai dit voilà, je m'y intéresse, j'aimerais bien, etc. Et puis du coup, ça m'a permis vraiment de mettre le pied dedans. Et du coup, j'ai été formée par des consultants pairs et j'ai toujours travaillé en cabinet conseil, alors que ma formation était plutôt commerce international. Voilà, donc l'anecdote est assez marrante.
Ok, ok. Et ensuite, en fait, t'es toujours restée un petit peu dans cette sphère RH ?
Toujours, effectivement. Ouais. J'étais approchée, alors à l'époque, c'est marrant, c'est moi qui étais chassée, par une Française qui était aux États-Unis. Et qui avait ce qu'on appelle là-bas une agence de placement. Alors, c'est un petit peu différent qu'en France. L'agence de placement, c'est souvent l'intérim qui a le droit de faire du placement CDI.
Ouais.
Là-bas, en fait, c'est la plupart des pays anglo-saxons ont un visa qui s'appelle le visa J1 et qui permet, en fait, pour un Européen, très clairement, de venir, en fait, faire une mission de longue durée chez un employeur américain.
Un an, 2 ans ?
Oui, pratiquement jusqu'à 36 mois. Donc, 18, 24, 36 mois.
Okay.
Rémunéré, ça, c'est des gros avantages. Et donc, nous, on était l'intermédiaire entre ces futurs stagiaires. Alors, c'était souvent des stages de fin d'études, hein, pour que ce soit aussi long. Et puis, les employeurs américains, donc on va dire que pour l'employeur américain, finalement, dans son état d'esprit à lui, ça correspondait plutôt à un CDD rémunéré, tu vois, avec un projet, vraiment quelque chose à gérer de A à Z. Et à la fin, on sélectionnait quand même nos stagiaires, parce que l'idée, c'était qu'il fallait qu'ils arrivent en poste et qu'ils soient opérationnels, ils étaient payés, etc.
Ouais, bien sûr.
Donc, voilà, donc je suis partie aux États-Unis, à Los Angeles, c'était assez fun, pour être honnête, il y a pire comme destination.
Ouais, c'est clair. LA.
Exactement. Et oui, mais tous les matins, on a l'impression qu'on est à peu près dans une série en voyant le signe Los Angeles sur la colline. Ça fait assez bizarre. On se dit, mais j'y suis vraiment, c'est assez
étrange. Le signe Hollywood, là, tu veux dire ?
Ouais, tout à fait, ouais. Okay. On se dit, il y a un truc qui est bizarre, qu'on a l'impression d'être dans la série, c'est marrant. Et voilà, j'y suis pas restée aussi longtemps que ce que je le souhaitais, parce que malheureusement, le patron de l'agence est tombé malade, on était une toute petite agence. Et puis, comme je te le disais, finalement, j'avais fait 7 ans à l'étranger, entre mes stages, mes échanges universitaires, ouais. Et puis du coup, mon début d'expérience professionnelle. Donc, je me suis dit que c'était aussi temps de rentrer. C'était assez bizarre aussi pour une recruteuse de ne pas connaître comment ça marchait le recrutement en France, tu vois. Et donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être temps de rentrer, voilà. J'en avais aussi un peu marre d'avoir qu'une seule valise pour, on va dire, pour toutes mes affaires, finalement. Donc, voilà, donc je suis rentrée. Et puis, j'avais fait aussi ce que je voulais en termes de pays. J'avais fait une petite dizaine de pays. Donc, voilà, je me suis dit que c'était peut-être temps de revenir en France, à Lyon, parce que lyonnaise d'origine, tout simplement. Je n'ai pas fait très original, on va dire.
Tu t'es retour aux sources, quoi.
Retour aux sources, exactement. Et puis, assez logiquement, si tu veux, comme mes deux premières expériences étaient des expériences entre consultantes RH, j'ai postulé, en fait, dans des cabinets conseils à Lyon. Voilà, et donc, j'ai continué aussi. Donc, j'ai toujours été dans ce poste de consultante, avec des cabinets qui étaient très teintés, effectivement, évaluation, chasse de tête aussi. Donc ça, j'ai vraiment appris la chasse de tête en arrivant à Lyon, en rentrant en France, puisque j'ai eu la chance d'intégrer un des cabinets leaders sur la chasse de tête lyonnais. Voilà. Et puis, c'est là que j'ai commencé aussi à travailler sur la partie développement, accompagnement, formation. Voilà, même si effectivement mes collègues tchèques m'avaient dit « Ah, mais Virginie, tu es une très bonne pédagogue, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose là-dessus. » Voilà, donc là, j'ai aussi découvert tout ce qui était accompagnement, formation.
Ok. Donc, si je résume... avant apostrophe, en fait, au tout début, donc diplôme de commerce international.
Exactement.
Ok, études de commerce international. Ensuite, consultant RH, t'es parti à l'étranger. Donc là, tu m'as dit 10 pays.
Oui, à peu près.
Et tu m'as cité Prague et les États-Unis. Il y a eu quoi d'autre comme pays ?
Alors, il y a eu la Russie, le Vietnam, l'Angleterre. J'avais commencé par l'Angleterre pour être bilingue, en fait, pour être très honnête. La Tchéquie, je te l'ai dit, l'Italie, du coup, les États-Unis, du coup, j'y suis allée deux fois, une fois en échange et puis une fois pour le travail. Qu'est-ce que j'oublie ? L'Allemagne aussi, et puis j'ai dû faire le compte là à peu près.
Ok. c'est super cool, hein, super cool. Donc, du coup, là aujourd'hui, tu as créé ta société, après avoir appris finalement. Si je fais le compte, ça fait un an à Prague, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, plus de 15 ans d'expérience. Et ça, t'as monté à apostrophe il y a 15 ans ?
Ouais, j'ai monté à apostrophe il y a 14 ans exactement.
14 ans.
Tout à fait, 14 ans, ouais.
Et t'es toute seule là du coup, chez apostrophe ?
Ouais, je suis toute seule parce qu'en fait, pour tout te dire, j'étais partie sur un projet de reprise d'un cabinet, juste avant apostrophe. Qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. J'ai découvert un peu les difficultés de ce que c'est qu'une reprise d'entreprise. Mmh. Et donc, je m'étais associée en vue de la reprise, en fait. Et puis, comme ça, c'est un peu mal goupillé, on va dire ça comme ça. Mmh. J'avoue que j'étais assez échaudée et que j'ai décidé finalement de partir toute seule. Voilà. Et du coup, de la reprise, je suis passée à une création vraiment, de zéro. Au départ, je me disais, tiens, finalement, la reprise, c'est un beau projet. En plus, le cabinet que je souhaitais reprendre allait avoir 35 ans. Donc, je trouvais que c'était aussi porter quelque chose, une belle histoire, continuer une belle aventure. Et puis, je m'étais dit, oui, ça peut être plus facile aussi que de créer, de partir de zéro, etc. Il y a quand même tout à faire, hein, c'était beaucoup de boulot. Et finalement, en fait, j'allais dire, la réalité m'a montré l'inverse. C'était finalement plus facile de créer.
Mais tu l'avais reprise et ensuite, tu es partie ou c'était avant de la reprendre ?
Non,
tu t'es dit, en fait, changement de cap.
Alors, changement de cap en cours de route, carrément. Je suis rentrée en tant qu'associée et consultante, donc à la fois salariée, à la fois associée. Et si tu veux, le deal, c'était qu'il y avait une période de 3 ans où je rentrais associée au bout d'un an. Et puis, au bout des 2 années qui suivaient, du coup, je devais reprendre effectivement l'entièreté du cabinet. Et puis, finalement, ça ne s'est pas du tout goupillé comme je pensais. Notamment, le dirigeant ne voulait pas vraiment partir. En fait, j'ai appris après que c'était quelque chose qui arrivait assez fréquemment. Et donc, c'était très compliqué. D'abord, il ne voulait pas lâcher la direction. Il m'a proposé de rester 2 ans de plus. Et puis, en fait, bon, même au-delà de ça, c'était très compliqué parce que finalement, lui, il était quand même en fin de carrière. Mmh. Et moi, tout ce que je portais en termes de développement, soit il ne le comprenait pas, soit il n'était pas totalement d'accord. Enfin, c'était, voilà, c'était assez compliqué. Donc,
c'est les aléas de l'association. Hein.
Exactement.
Ok, tu m'as dit plein de choses. J'ai plein de questions.
Vas-y.
Je sais que tu es experte, du coup, et puis t'es aussi, j'ai regardé dans ton profil, t'es à l'APM. Mm-hmm, pour ceux qui ne connaissent pas l'APM, c'est tes prises de parole pour des gens qui ont de l'expertise à donner et à transmettre.
Tout à fait, c'est un club de dirigeants, voilà, effectivement, et il y a un côté à la fois formation via les experts, en fait, et il y a aussi le côté club de dirigeants, si tu veux, où, ben, effectivement, on est à peu près entre 20 et 25 par club, et donc il y a un vrai échange, en fait, entre dirigeants, où on peut venir parler de nos problématiques, qui sont souvent les mêmes d'ailleurs, mais abordées de manière différente. Et du coup, avoir aussi un retour, tu vois, un peu comme un codev finalement, avoir un retour aussi de d'autres dirigeants, comment ils voient la chose par rapport à nous, hein, parce que du coup, bah, ça permet de sortir un peu le nez de son truc. Hein,
voilà. Prendre de la hauteur et puis partager avec des gens qui partagent tes problématiques.
Exactement, et voir ce qu'eux ont pu faire, si c'est applicable pour nous, etc. Donc c'est une vraie richesse, ça.
Un réseau, un réseau. Ok, sur la partie... Moi, j'ai compris que tu avais quand même pas mal de choses à dire sur des clés de rétention de talent, l'assessment, les audits RH, l'analyse de la démarche. Et tu m'as parlé aussi de mise en situation, formation, coaching. Ok. Avant d'entamer un peu tout ça, est-ce qu'on peut se faire un espèce de petit résumé sur quels sont les enjeux ou les problématiques que tu vas adresser quand tu vas... déjà, tes clients. C'est quelle typologie à qui tu parles, qui t'accompagne, et est-ce que tu as peut-être aussi un pourcentage, par exemple, je sais pas, 20% c'est tel type de pro, de cible, etc. Est-ce que tu as ça?
Oui, tout à fait. Alors, en majorité, mes clients, 70 à 80%, ça reste des entreprises. Et le reste, effectivement, je m'adresse aussi aux particuliers, je t'en parlerai après, mais c'est une activité un peu plus mineure, on va dire, par rapport à l'ensemble de mes activités. Donc effectivement, mes clients, c'est des pros, c'est des entreprises, souvent quand même très teintées industrielles, parce qu'il y a une vraie culture RH qui est un petit peu moins dans le service, malgré tout. Je pense que ça, c'est historique, hein. C'est vraiment pas, voilà, c'est factuel, hein. Il n'y a pas... je comprends. De manière historique, effectivement, les industriels ont plus une démarche RH un peu plus ancrée. Donc effectivement, ce sont des pros, ce sont plutôt des industriels et qui vont avoir différents besoins. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est soit attirer, soit retenir, soit fidéliser. Enfin, retenir, fidéliser, on est un peu sur les mêmes enjeux, j'y reviendrai tout à l'heure, leurs collaborateurs. Et du coup, la plupart du temps, ils s'adressent à moi. Bon, on va dire plusieurs cas de figure, mais grosso modo, ils sont soit sur un accompagnement individuel, soit sur des problématiques de plusieurs collaborateurs, voire carrément d'une équipe, d'un service au sein de l'entreprise. Et les problématiques, bah, c'est finalement à la fois garder la personne, mais aussi la positionner en fonction du coup de ses compétences, celles qu'elle a à l'instant T, mais aussi du potentiel à développer. Voilà. Okay. Et ça, aujourd'hui, ça devient une vraie clé, en fait, puisque bah, les collaborateurs souhaitent vraiment avoir des perspectives et un parcours finalement expérientiel dans l'entreprise. Voilà, ils veulent savoir ce qui va se passer, comment ils vont être accompagnés, comment ils vont être formés, comment ils vont se développer, comment ils peuvent progresser aussi, bien sûr, en termes de fonction et de perspective d'évolution dans la structure. Voilà, donc je vais intervenir effectivement dès que l'entreprise se pose des questions sur comment accompagner ou évaluer, là plutôt dans une optique finalement de sélection aussi, mais pas que, accompagner, sélectionner et finalement projeter la personne vers un avenir un autre avenir professionnel, potentiellement une autre fonction, une mobilité interne. Ça peut être aussi un passage cadre chez certains de nos clients industriels. Et effectivement, comme tu le disais, on va intervenir avec une méthodologie qui s'appelle l'Assessment Center, qui est tout simplement de la mise en situation professionnelle, ce qui nous permet, chez Apostrophe, de faire travailler la personne et de travailler avec elle, donc avoir un retour vraiment significatif sur quel est son mode de fonctionnement, comment elle s'organise, comment elle est finalement quand on travaille avec elle, c'est comment travailler avec elle, comme je leur dis souvent, et du coup bah, de leur faire aussi un retour sur c'est quoi leurs points forts, et puis éventuellement des axes d'amélioration, de développement, et faire des recommandations sur celles-ci.
Ok, donc comment accompagner et faire évoluer les gens à d'autres fonctions ou passage cadre? grosso modo dans le secteur B2B industriel. Un enjeu, c'est l'attraction, l'autre enjeu, c'est la fidélisation. Sur toi, tu fais plus de fidélisation qu'à d'attraction, j'imagine ?
Ça dépend en fait, ça dépend vraiment des années, des clients. Non, c'est un petit peu les deux parfois. Parfois, c'est les deux combinés parce que c'est quelqu'un en interne, par exemple, qui veut être promu, que l'entreprise souhaite quand même garder au cas où on ne serait pas, par exemple, le meilleur candidat par rapport au cahier des charges, tu vois.
D'accord, okay.
Donc, des fois, on peut vraiment cumuler les deux.
Ok. Effectivement, c'est très important aujourd'hui d'accompagner et de proposer. C'est des leviers de rétention énormes, la formation. Regarde, grâce à cette société, tu as pu évoluer comme ci, comme ça. L'apprentissage, c'est une des clés de rétention. J'avais lu une étude, alors ça c'était l'année dernière. Il y avait les quatre premières clés de rétention, c'était 1, le salaire, 2, l'apprentissage, 3, les relations avec les collègues et les managers, et 4, le sens au travail. Et donc du coup, marrant parce que quand tu posais la question aux gens en général, ils disaient tout le temps le sens, ils le voyaient plus haut que ça. Mais l'apprentissage était vraiment juste derrière le salaire. C'est-à-dire que est-ce que j'ai l'impression d'évoluer dans cette structure, d'apprendre finalement? Est-ce que j'ai grandi et j'ai évolué personnellement après qu'avant, par rapport à avant? Et ça, c'était une grosse clé de rétention et d'attraction aussi, en disant chez nous, tu vas être accompagné comme ci, comme ça, tu vas pouvoir former un machin, dans 2 ans, si tu atteins tel objectif, tu vas pouvoir passer ici, patati, patata, avoir ce fameux parcours de carrière dans l'entreprise. Tes interlocuteurs, c'est qui? C'est les RH? C'est les directeurs de formation?
Alors, mes interlocuteurs, la plupart du temps, c'est les patrons, c'est-à-dire DG, ouais. PDG. Bien sûr, le DRH est dans la boucle, mais la plupart du temps, il n'est pas forcément... il peut être prescripteur, on va dire. Mais malheureusement, c'est encore triste à notre époque, c'est souvent, il n'a pas carte blanche, en fait, notamment en termes de budget. Donc souvent, s'il n'y a pas une impulsion de la direction, c'est des projets qui sont assez durs à mettre en œuvre. Et juste pour revenir à ce que tu disais précédemment, il y a aussi une autre clé, la formation, le parcours, on est bien d'accord, mais parfois, même quand, parce que le budget d'évaluation, parfois c'est un budget conséquent, et l'entreprise n'a pas forcément un budget pour accompagner tout le monde, tu vois, en termes de formation, de coaching, etc. Et parfois, ce qui est très intéressant, c'est rien que le feedback, en fait, que les collaborateurs n'ont pas eu et qu'ils obtiennent forcément suite à un assessment center. En fait, ils sont hyper preneurs de ça. On rencontre des gens qui ont 30-40 ans de carrière, et qui nous remercient pour ce feedback qu'ils n'ont jamais eu en interne. Et du coup, je pense que ça rejoint le sens que tu évoquais tout à l'heure.
L'Assessment Center, donc tu peux parler de mise en situation pour décrire des fonctionnements individuels et collectifs, et ensuite faire un retour sur les points forts et les points d'effort. C'est quoi une mise en situation ?
Alors, c'est des cas assez classiques en fait, de la vie d'entreprise, c'est-à-dire ça peut être pour un manager, devoir mener un entretien de motivation, de recadrage, par exemple, avec un collaborateur. Ça peut être aussi pour, par exemple, un dirigeant commercial, du coup, devoir conduire et animer une réunion avec son équipe, donc de commerciaux, faire un point sur les résultats de l'année précédente, fixer des objectifs à venir, etc. Voilà, ce sont vraiment des scènes très courantes, en fait. On reconstitue aussi, dans la mesure du possible, si tu veux, une équipe qui va aussi être représentative de ce que tu trouves dans l'entreprise. C'est-à-dire que dans notre équipe, l'idée, c'est d'avoir des personnalités différentes, d'avoir autant d'hommes que de femmes, d'avoir des seniors en termes d'expertise, et puis des plus juniors. Voilà, donc on retrouve vraiment, voilà, l'idée, c'est vraiment de reconstituer au plus proche des scènes de la vie professionnelle assez classiques, et sur une journée ou une demi-journée, tu vois, ces mises en situation, business case, hein, qu'on peut aussi appeler comme ça, vont vraiment permettre, en fait, de condenser, de nous permettre en fait d'apercevoir le mode de fonctionnement de la personne, comme si on l'avait suivi pendant plusieurs semaines, mais là du coup sur plusieurs mises en situation. Chaque mise en situation, tu vois, je te parlais par exemple d'une mise en situation où c'est plutôt un one-to-one, par exemple l'entretien avec un collaborateur, une autre mise en situation où ça va être plutôt finalement une animation d'une réunion d'équipe. Ces mises en situation sont forcément différentes, il y a plusieurs typologies, parce que l'idée, c'est à chaque fois, on vient éclairer une dimension d'une manière un peu différente. Si je te prends un exemple de dimension, le sens du contact ou la communication, on ne va pas, toi et moi, hein, mais n'importe qui d'ailleurs, tu ne vas pas t'adresser de la même manière quand tu parles à quelqu'un que quand tu dois prendre une prise de parole en groupe. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que sur une journée ou sur une demi-journée, on va avoir un minima 2-3 mises en situation avec des formats différents qui vont nous permettre vraiment de sonder la compétence de manière un peu globale. Je prends souvent cette image, c'est un peu comme une boule à facettes. L'idée, c'est d'observer le plus de facettes possible, voilà, au cours de la journée.
Tu retiens tout, tu notes au fur et à mesure, tu fais des rapports.
On note tout au fur et à mesure, bien entendu. On a bien sûr une synthèse écrite à la fin. Et puis, on fait une restitution après chaque mise en situation au candidat ou à la candidate.
Okay.
L'idée aussi, c'est de sonder finalement. Alors, c'est de faire un retour, acheter du feedback. C'est super important pour moi, dans mes convictions en tout cas. C'est aussi de savoir comment elle a vécu les choses. Par exemple, pendant les temps de préparation, c'est des temps qui sont un peu opaques pour nous, puisque du coup, on la laisse préparer tranquillement toute seule. Donc, ça nous permet aussi de sonder finalement, peut-être ce qu'elle avait prévu de faire et ce qu'elle n'a pas fait, comment elle s'est adaptée, ce genre de choses. Ça permet aussi de voir le niveau de conscience qu'elle a d'elle-même, c'est-à-dire à quel point elle est consciente de son mode de fonctionnement et de l'impact que ça a du coup sur une équipe ou sur un collaborateur. Et puis, ça va permettre de voir le fait de faire des restitutions, tu vois, après chaque mise en situation, ça va permettre de voir ce que la personne prend ou pas et ce qu'elle est capable de commencer déjà à actionner. Parce que là, on travaille vraiment sur le comportement. Et du coup, le fait de restituer permet de mettre en mouvement la personne, travailler aussi sur les émotions, pour voir effectivement ce qu'elle est capable de faire bouger sur le curseur du comportement.
Ok. Ça, c'est intéressant sur cette mise en situation. Par exemple, une dimension, tu m'as dit la dimension du sens du contact.
Mm-hmm,
c'est quoi les autres dimensions que tu vas analyser ?
Alors, on va avoir bien sûr des dimensions plus personnelles de type capacité d'analyse, capacité d'organisation, gestion du temps, gestion des priorités, ce genre de choses. Affirmation de soi aussi qui a un volet, on va dire, plus personnel. Il va y avoir tout ce qui va être les dimensions de communication, donc communication, écoute, tout ce qui va être aptitude à motiver, qu'on soit dans du management ou pas, négociation, persuasion, alors commercial, mais pas que, ça peut être aussi dans un cadre plutôt managérial, du coup. Et puis, il va y avoir effectivement tout ce qui est vraiment très très propre au leadership et au management, donc tout ce qui va être aussi de la gestion émotionnelle, tout ce qui va être le leadership avec la capacité d'affirmation, cette fois plutôt orientée pour fédérer un collaborateur, motiver, fédérer autour d'un projet, donner du sens, etc. Capacité de vision haute, par exemple, de vision stratégique, voilà. À chaque fois, on se rend compte qu'on a à peu près une vingtaine de dimensions qui nous sont les plus demandées. Sur le management, il faut compter à peu près 10 à 12 dimensions minimum qu'on va retrouver à chaque fois pour que ça fonctionne. Et si tu veux, aussi la richesse de l'assessment, c'est que c'est très, très factuel. C'est-à-dire qu'on va être en capacité, toutes ces dimensions que je te citais, elles sont déclinées en comportement observable. Si je prends une dimension pour un exemple, par exemple l'écoute, le fait d'écouter la personne, est-ce qu'elle laisse l'autre, par exemple, s'exprimer ? Est-ce qu'elle pose des questions ? Est-ce qu'elle approfondit ? Est-ce qu'elle relance ? Est-ce qu'elle reformule ? Etc. Tu vois, il y a tout un tas de comportements observables, mais ça va plus loin. C'est-à-dire que des fois, tu peux le faire. Par exemple, là, tu m'écoutes, tu prends des notes. Mais moi, je peux avoir le sentiment, ce qui n'est pas le cas, hein, je te rassure, mais je peux avoir le sentiment dans la mise en situation que même si tu fais ça, tu le fais quand même de manière assez mécanique. Et mon ressenti interne, du coup, il est qu'en fait, tu ne m'écoutes pas vraiment.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on arrive aussi à sonder ça.
Ça, tu détectes chez le personne.
Oui, tout à fait.
Okay. Et ça, c'est en observation ?
Tout à fait. Alors, c'est la richesse, en fait, d'être dans la situation de travail avec l'autre. C'est-à-dire que si je te reprends l'exemple de la situation de réunion de travail, donc réunion d'équipe, le fait que le candidat ou collaborateur, notre client, joue notre manager, en fait, c'est assez marrant, notre cerveau se prend vraiment au jeu. Et en fait, tu vas avoir un ressenti, toi aussi. Tu vas te dire, tiens, à ce moment-là, j'ai vraiment envie de travailler avec lui. Et à d'autres moments, tu dis, mais non, mais il ne m'écoute pas du tout, mais ce n'est pas possible. Voilà, et tu te transformes vraiment en collaborateur de ce collaborateur.
Sur cette partie d'observation, en fait, finalement, est-ce que cette méthode, elle t'appartient à toi ou est-ce que tu es capable de la transmettre ? Parce que là, aujourd'hui, tu me dis, après ça, c'est 15 ans. Pourquoi il n'y a pas plus de Virginie Gardiani dans chez Apostrophe ? Ce que je veux dire, c'est une volonté de rester solo.
Ouais,
ou est-ce que ton modèle il est réplicable ? Parce que là, ce que tu me dis, c'est tu mises en situation, tu observes, tu as été formé, tu as regardé, tu as quand même un peu d'expérience sur l'analyse comportementale, machin, etc. Et est-ce que ça, à transmettre, c'est trop compliqué, trop lourd, trop dur ? Parce que tu arrives à capter des machins. Après, tu vas le mettre dans le rapport. Pour toi, c'est évident, mais pour quelqu'un, un junior qui viendrait te rejoindre, etc., ça serait très compliqué. Donc, finalement, c'est pas mal de... Comment dire si je donne un comparatif, c'est alors, c'est entre du feeling et de l'observation et du profiling, quoi. Tu vois.
C'est un peu ça, effectivement. On peut avoir l'impression que c'est ça. Ça reste quand même très, très factuel parce que, ouais. Par exemple, tu vois, il a fait ou il n'a pas fait, il a dit ou il n'a pas fait, ouais. Quelque chose. Ouais, okay. Et le ressenti de l'équipe, parce que dans une mise en situation, on est minimum 3 consultants par journée. Donc, si tu veux...
Ah, mais il y a des consultants avec toi.
Oui, il y a d'autres consultants.
Ah, donc du coup, tu sous-traites, en fait.
Non, non, c'est pas ça. En fait, je travaille avec une équipe de partenaires. Alors, pour répondre à ta question, c'est une vraie volonté de ne pas avoir d'associé, ouais. De ne pas, voilà, de rester solo. Par contre, je n'ai jamais travaillé seule depuis plus de 14 ans. En fait, je travaille avec un vivier de partenaires qui sont consultants aussi, qui sont tous formés à l'assessment et qui vont intervenir avec moi sur les mises en situation. Oui, tout à fait.
D'accord, ok. Okay, donc,
Mais ça ne m'appartient pas. Hein. L'assessment center, c'est une méthodologie qui est très, très vieille, en fait. Qui est malheureusement peu connue, mais qui remonte à la Première Guerre mondiale, donc comme quoi tu vois, qui a du vécu. Et en fait, ce sont les Allemands, pendant la Première Guerre mondiale, qui en fait se sont mis à faire des premières mises en situation, alors bien sûr adapter l'armée, on est bien d'accord.
Pour les alpha et bêta.
Alors, notamment pour sélectionner les officiers, voilà, ça a été en fait observé, alors, c'est marrant parce que du coup c'est européen, tu vois, à la base, et pourtant ça s'appelle Assessment Center, c'est parce que la petite histoire, c'est que ça a été observé par d'autres officiers britanniques, donc de l'armée britannique, ont ramené ça donc au Royaume-Uni, qui ont ensuite exporté ça aux États-Unis, et du coup c'est devenu l'Assessment Center. Voilà, donc c'est assez marrant. Mais en fait, le principe de simulation, il existe depuis très très longtemps. Ça a été utilisé bien sûr après à de nombreuses reprises par les Américains dans l'armée, mais pas que. Et en fait, si tu veux, l'armée avait commandé, on va dire, des études. Et donc, il y a une très, très grosse étude qui est très connue sur l'assessment, qui a duré 25 ans, qui a été faite par un DRH et son acolyte au sein de l'entreprise AT&T, donc France Télécom chez nous, on dirait. Et en fait, ils ont assessé, en fait, alors, plus d'une centaine de collaborateurs sur 25 ans. Hein. Et la particularité, ce qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui, parce qu'en termes de fidélisation, ça ne marcherait pas, mais surtout, ils n'ont pas fait de retour, en fait, aux collaborateurs. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas du tout fait de feedback sur les points forts, les axes à développer, etc. Mmh. Par contre, ils ont fait des dossiers en disant voilà comment on prédit finalement la réussite ou pas, ou la montée dans l'organisation de tel ou tel collaborateur. Et du coup, c'est ce qui a permis en fait de démontrer la puissance de l'assessment, qu'effectivement, bah, la plupart du temps, on prédisait que la personne bah, avait du potentiel et qu'elle allait encore beaucoup monter dans l'organisation. Ça s'est avéré assez juste. Voilà. Mmh. Donc, mais c'est vrai que ça serait assez dur aujourd'hui de reproduire ça, parce que comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, les collaborateurs, les candidats sont hyper friands de feedback. C'est très, très mal vu de ne pas faire de feedback.
Et puis, le marché de l'emploi est tellement dynamique que rester 25 ans dans une boîte, c'est plus possible.
C'est ça,
quoi.
C'est plus possible, malheureusement.
Ouais.
Donc, voilà, c'est pas ma méthode. Après, bien entendu, je crois qu'il y a quand même une particularité. Alors, je ne suis pas la seule à faire de l'assessment. Hein. Il y a plein de concurrents, que ce soit sur Lyon ou sur Paris, plutôt sur Paris d'ailleurs que sur Lyon. Je crois qu'après, la particularité, ça vient aussi des convictions qui sont portées par l'équipe de consultants avec lequel tu fais un assessment. C'est vrai que moi, au début, quand je travaillais avec certains partenaires qui avaient travaillé avec d'autres entreprises, qui me disaient « Ah, mais Virginie, pour toi, c'est super important que le candidat comprenne. » Et oui, c'est vrai, pour moi, c'est ce que je disais, le feedback, il est très important. Je crois que c'est vraiment une clé du développement. Je crois que c'est ce que tu ne peux pas te développer si tu ne connais pas déjà quels sont tes points forts. Et encore une fois, que c'est quand même plus facile de miser sur tes points forts pour te développer que d'aller travailler à mort tes points faibles, entre guillemets.
Amen.
Voilà. Donc, pour moi, c'est très, très important. Et c'est vrai que, voilà, c'est porté par ces convictions-là où, pour nous, la personne, elle vient. Bien sûr, on est mandaté par l'entreprise. Hein. Comme je le disais, on est vraiment mandaté, financé par l'entreprise. Mais c'est la personne qui vient, qui passe une journée, une demi-journée avec nous. On la fait travailler, c'est intensif. En termes de stress, je pense que ça correspond à une première journée de travail, tu vois, quand tu arrives dans une société et que tu connais encore personne. Première journée d'intégration, voilà, où tu découvres tout et tu dois déjà être opérationnel.
Ouais, puis tu as un biais de désirabilité énorme aussi.
Voilà, exactement. Donc vraiment, tu vois, pour moi, c'est vraiment important. La personne, elle vient, elle investit du temps, de l'énergie. Et pour moi, c'est important parce qu'elle est aussi actrice de ce qui va se passer après. C'est-à-dire que tu ne peux pas la développer si elle-même n'a pas envie de se développer. Si elle n'a pas conscience de ce qui peut, sur quoi elle peut s'appuyer, ce qu'elle doit aussi peut-être. Des fois, c'est des trucs très, très infimes, en fait. Et il y a des leviers d'action qui sont vraiment exponentiels, en fait, chez des collaborateurs. Donc voilà, donc je pense que ce qui fait la différence sur la méthodologie, c'est effectivement comment elle est pratiquée. Il y a quelques fondamentaux à respecter. Mais après, voilà, c'est effectivement plutôt l'équipe, l'état d'esprit d'équipe et les convictions qui portent l'accompagnement, en fait.
Ok, effectivement, j'en pars un tout petit peu en arrière. Tu sais, je fais de l'écoute active. sens du contact, analyse, orga, gestion, gestion prio, com, écoute, motivation, négo, persuasion, gestion des émotions, vision stratégique, comportements, en gros, grosso modo, tous les comportements observables, tu vas les mesurer sur des dimensions. C'est ce que tu appelles la dimension. Ou plutôt élevé, plutôt bas. C'est quoi l'indice de valeur? C'est-à-dire que tu dis c'est une échelle de 5 en disant lui il est à 5 sur 5 sur ça, ou sur une échelle sur 10, une échelle sur 100%, une échelle, c'est quoi ton échelle en fait?
Non, alors en fait notre échelle, on va adapter la difficulté de l'exercice et de notre jeu, entre guillemets, en tant que compère dans les différentes mises en situation, aussi en fonction des attentes du client. Donc c'est pour ça que le brief en amont avec le client est très important. Par exemple, le client va nous dire chez nous, la culture du feedback, c'est super important. Donc, quelqu'un qui, tu vois, même si on est hors dimension, mais quelqu'un qui aurait de l'ego et qui n'est pas capable de se remettre en question, ça ne passera pas chez nous. Donc, même si ce n'est pas des fois des choses qui nous sont demandées dans les compétences en tant que telles, si on le sent en termes de restitution, ça peut être des choses qui vont être rédhibitoires. Donc, en fait, on travaille en amont, pendant le brief, avec notre client pour savoir sur chacune des dimensions quelles sont les attendues. Donc, c'est vraiment le client, en fait, qui fixe les attendues. Et nous, on va se caler en termes de niveau de difficulté de l'exercice. Comme je disais, soit je construis un exercice complètement adapté, soit je vais aller puiser dans ma bibliothèque. Maintenant, j'en ai plus de 250, je crois. J'arrive plus à compter. Mais on en a un paquet de mises en situation qui vont faire ressortir les dimensions. En fait, les exercices, je les construis en fonction des dimensions que la personne cherche à sonder et du niveau de difficulté, en fait. Et pour te donner une idée, par exemple, tu n'attendras pas le même niveau de vision stratégique d'un directeur général que d'un manager intermédiaire. Tu vois, voilà. Et des fois, c'est demandé quand même. Voilà. Mais c'est plus comme ça, en fait. Effectivement, ça va être plutôt un benchmark entre soit les mêmes fonctions dans une même entreprise, soit aussi, du coup, notre connaissance de clients très divers et variés. Parce que tu me posais la question tout à l'heure, on peut intervenir dans l'industrie, par exemple chez Leader de l'aluminium, comme on peut intervenir chez Nestlé, tu vois, donc dans l'agroalimentaire. Donc des secteurs très, très, très vastes, variés. Mais en fait, d'un client à l'autre, finalement, les compétences attendues ne sont pas les mêmes, l'état d'esprit n'est pas le même, le niveau de difficulté n'est pas le même. Voilà. Même si des fois, c'est le même intitulé de fonction, tu sais, ça s'appelle pareil. Mais en fait, quand tu creuses derrière, on ne demande pas la même chose.
Ouais, c'est pas pareil. Est-ce que tu fais un rapport individuel, ça j'ai compris, et est-ce que tu fais un rapport aussi collectif et d'équipe?
Alors ça peut nous arriver effectivement, tu vois, quand on va passer en revue toute une équipe ou tout un service au sein de l'entreprise, effectivement on va faire ce qu'on appelle une cartographie. Donc là, le rapport collectif, alors il y aura toujours le rapport individuel, quoi qu'il en soit, tu l'as compris, ma philosophie, c'est que la personne, elle s'approprie finalement.
Mais c'est essentiel en plus.
C'est essentiel.
Tu demandes du temps, donc tu lui donnes quelque chose en retour.
Exactement. Et puis c'est pour elle, et puis comme je disais, il faut qu'elle soit actrice de ce qui va se passer par la suite. Et effectivement, des fois, donc, quand on va passer en revue, par exemple, quand on va sonder toute une équipe ou une typologie de fonction dans l'entreprise, effectivement, des fois, quand on est dans un objectif de revoir une organisation, donc vraiment changer l'organigramme, je te donne un exemple, on a eu un client, finalement la loi changeait, et pour lui ça impactait toute sa stratégie commerciale, donc il fallait repositionner tout le monde un peu en ordre de bataille sur une nouvelle stratégie, et l'idée c'était de savoir qui va porter quoi, qui est en capacité de porter quoi demain, voilà. Avec une configuration, tu l'as compris, complètement nouvelle finalement sur le marché. Donc là, effectivement, on va faire une synthèse pour essayer de positionner donc les gens. Alors, la plupart du temps, notre client a quand même une espèce d'organisation cible en tête. Et nous, on va venir finalement, en fonction de la compétence à ce jour et du potentiel qui reste à développer, les conseiller sur comment positionner les gens dans cette organisation cible imaginée.
Ok, c'est intéressant. Très intéressant. Donc du coup, le brief en amont est méga important avec ton client. C'est quoi ton enjeu, c'est quoi ton objectif? Et après, derrière, tu as une bibliothèque de 250 mises en situation pour faire de la cartographie d'équipe. Et du coup, pour ça, tu passes par un assessment individuel, puis potentiellement collectif. Le collectif, après, tu reviens. Et donc, c'est ça?
C'est exactement ça, ouais, tout à fait.
C'est intéressant parce que je me dis à quoi ça ressemble une vue, une restitution d'équipe. C'est genre tu mets tes résultats sur une inbox, c'est un graphique, c'est quoi?
Alors, on a effectivement la plupart du temps, certains de nos clients utilisent la Ninebox. Donc effectivement, on va aller là-dessus quand ils sont familiers avec la Ninebox. Sinon, c'est carrément effectivement une projection sur l'organisation cible. C'est-à-dire qu'ils nous expliquent leur enjeu, comment eux voient l'organisation cible et les compétences qui vont être nécessaires à chaque fonction de cette organisation qu'ils visent. Et du coup, nous, au regard des débriefings individuels, on va savoir effectivement positionner les gens. Donc, ça va plus être remplir un organigramme. du coup, dans ces cas-là. Mais effectivement, il peut y avoir un nine-box. Ça va vraiment dépendre de, finalement, où elle en est aussi longtemps. Alors, quels sont ses enjeux et où en est l'entreprise ? Parce qu'il faut être très clair, la gestion des talents n'est pas très en avance en France. Mmh. Voilà. Donc, la nine-box ou l'assessment center, c'est encore peu connu, je te le disais tout à l'heure. Et c'est vrai que souvent, bah, la gestion des talents, ça arrive. Pourquoi ? Parce que c'est un peu poussé... C'est un peu poussé de par la pénurie sur le marché qui est très tendu, qui fait que d'un seul coup, l'entreprise se dit « bon, bah, j'ai du mal à recruter, mes collaborateurs peuvent partir, c'est un gros risque, donc finalement, je regarde en interne et j'essaie de les fidéliser ». Malheureusement, on est encore sur ce réflexe-là, sur cette mécanique-là, et ce n'est pas de l'anticipation, enfin, très peu en tout cas, ça nous arrive sur certains clients, mais ça reste encore minoritaire. Tu vois, plutôt que se dire bah, « finalement, c'est quoi les métiers de demain, c'est quoi l'organisation de demain dont on aura besoin », ça reste quand même assez minoritaire dans... Voilà, dans les demandes qui nous sont adressées, en tout cas.
Bah, prendre de la hauteur pour n'importe quel codir d'une boîte, déjà, il faut prendre ce temps.
C'est ça.
D'habitude, ils sont dans le jus, et du coup, prendre de la hauteur, c'est un peu compliqué. Et puis, avoir des regards extérieurs aussi, en toute confidentialité, c'est compliqué à avoir aussi. Donc, construire une stratégie quand t'es à la tête d'une boîte, faut vraiment faire confiance à des gens que tu connais pas pour pouvoir avoir un regard extérieur et adapter ta stratégie en fonction pour ensuite la faire redécouler sur ton organisation. Donc ça effectivement, c'est un des freins à l'innovation, la réorganisation, ce genre de truc. Puis après, derrière, la méconnaissance des outils, RH, tout ça, donc c'est pour ça aussi que t'existes, hein, oui. Parce que t'apportes cette compétence à les équipes RH qui sont déjà sous l'eau sur les tâches du quotidien, les payes, les congés, les entretiens annuels et ce genre de trucs. Donc effectivement, ouais, c'est la gestion des talents, c'est quelque chose qui est, pour un pays administratif comme la France, très compliqué, qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis, j'imagine, parce qu'il y a un peu moins d'administratifs, ça va un petit peu plus vite dans les décisions, et donc du coup, ils peuvent se concentrer un peu plus sur le people.
C'est ça. En fait, si tu veux, c'est assez marrant que tu apportes ça dans la discussion, parce qu'en fait, c'est le modèle inverse, les US. Enfin, les pays anglo-saxons, d'une manière générale, hein, il n'y a pas que les Américains. En France, si tu veux, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens, entre guillemets. C'est pas forcément des bons moyens, mais en tout cas, on met vraiment de l'énergie, je vais dire plutôt ça comme ça, à vraiment être hyper sélectif à l'entrée dans l'entreprise, voilà, sur la plupart des postes. Hein. On va vouloir que la personne ait tel diplôme, qu'elle soit dans les bonnes cases, qu'elle ait déjà cette expérience. Tu sais, on parle beaucoup de clonage en France, hein, sur les candidats. Voilà. Et ça, on fait très attention à ça. Et puis, une fois qu'elle est rentrée dans l'entreprise, bah, finalement, on la lâche un peu dans la nature et on s'en occupe plus vraiment. Les anglo-saxons, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que tu rentres très facilement un peu n'importe où sur la base de tes motivations. Très vite des résultats, hein, bien entendu. Après, bah, si tu n'es pas au résultat, tu sors aussi vite. Hein, ouais. On est d'accord avec ça. Par contre, les anglo-saxons vont s'occuper en fait, de tes 7 à 10 premières années dans l'entreprise en t'évaluant régulièrement, en t'accompagnant et te formant régulièrement. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, chez nous, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas la même prise de risque parce qu'en France, c'est compliqué d'intégrer et après de te faire partir quelqu'un. Il y a des dommages collatéraux assez importants, il y a une prise de risque financière, etc. Alors qu'aux US, on sait, hein, comme dans les films, tu pars avec ton petit carton sous le bras.
C'est ça. En France, tu as des boîtes aussi qui coulent parce que elles n'arrivent pas à se séparer de collaborateurs à cause du code du travail. Hein.
Oui.
Donc, c'est aussi un risque. Tu te dis, faut que je fasse gaffe à l'entrée parce que, après, derrière, si ça ne le fait pas, je vais mettre du temps à m'en séparer. Ce qui n'est pas le cas du modèle US.
Exactement. Et puis, tu as une question de courage managérial parce qu'en fait, si tu veux, dès que. L'idéal, ce qui n'est pas toujours applicable, mais l'idéal, c'est qu'effectivement, dès que ton collaborateur sort des clous ou n'est pas dans ses objectifs, c'est aussi de sanctionner ça. Et c'est vrai qu'en France, on n'est pas non plus les champions en termes de courage managérial. Et du coup, des fois, tu laisses pourrir des situations. Et quand tu veux t'en saisir, c'est un peu trop tard. Quoi. Ou alors, ça devient très complexe.
La période d'essai est passée.
Exactement. Par exemple.
Et t'es marron. Et ouais. Ok, très clair. Donc, Ninebox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil assez simple, mais utile, sur 9 cases. Donc, il y a 3 cases en hauteur, 3 cases en largeur, et puis 4 cases qui sont entre les deux. Grosso modo, si vous êtes tout en haut à droite, vous êtes prêt à être promu à évoluer dans l'entreprise. Si vous êtes tout en bas à gauche,
vous n'êtes pas à la bonne place.
Vous n'êtes pas du tout à la bonne place. Après, en gros, grosso modo, c'est quelque chose qui va soit on fait quoi, on fait performance en fonction de l'attitude, ouais, ou performance en fonction de quelque chose d'autre. En gros, c'est deux axes, quoi.
C'est deux axes. Le premier, c'est performance sur des indicateurs vraiment du quotidien du poste, en fait. Ouais. Le deuxième, c'est potentiel. Et en fait, c'est là que la question de l'assessment center se pose. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu es sur l'axe du potentiel, même si le manager est accompagné, formé pour essayer d'évaluer le potentiel, c'est compliqué en fait de prendre du recul et d'évaluer quelqu'un sur une fonction qu'il n'a jamais exercée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est vrai que souvent on intervient aussi à ce moment-là en amont en fait de tout ce qu'on appelle les comités carrière ou people review, ouais, pour venir alimenter cet axe du potentiel.
Carrément. Alors c'est hyper intéressant tout à l'heure. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Effectivement, l'assessment, je le dis aussi à mes clients, mes partenaires, etc. C'est des histoires que je raconte. Je leur demande, c'est vrai que de quand datent les premiers assessments ou les premiers questionnaires de personnalité ? Eh bien, de la Première Guerre mondiale. En général, les gens, ils imaginent que c'est l'Antiquité, le Moyen-Âge, ou ce genre de truc. Alors oui, effectivement, il y a eu des philosophes qui se sont intéressés, mais les analyses de data docquées, effectivement, c'est l'armée qui les a amenés sur le tapis pour sélectionner les officiers ou les soldats pendant les premières guerres mondiales parce qu'il fallait prendre des décisions rapides et stratégiques. Donc l'armée est souvent à l'initiative d'innovation, hein, on va pas se le cacher. Ce qui est rigolo, c'est qu'au fur et à mesure du temps, déjà, il y a deux constats. Le premier, c'est que ça fait pas si longtemps que ça. Mm-hmm. Parce qu'il y a encore des gens qui sont nés en 1914 qui sont encore sur Terre. Donc, c'est à peine une vie humaine que ça existe, ces trucs-là. Donc déjà, ça comparé à la maths, aux maths, physique, etc., on en est à compter les moutons sur nos doigts. Mm-hmm. On n'a pas vu les soustractions, on n'a pas vu les multiplications, on n'a pas vu les divisions, etc., etc. Donc du coup, déjà, on est sur une science où on est, pas à la préhistoire, mais on est sur les balbutiements, sur les fondements. Donc ça déjà, c'est un premier truc à voir. Donc c'est déjà cool d'avoir des insights, mais attention, il faut aussi prendre des choses avec parcimonie parce qu'il y a des risques d'erreur, forcément, il faut les connaître. En général, quand on dit aussi à quelqu'un, voilà tes points forts, voilà tes points d'effort, faut aussi mettre un peu de nuance sur ces trucs-là parce que la personne aussi, elle peut se faire un biais d'appropriation et se dire, ah, je suis comme ça. C'est comme quand les personnes regardent l'horoscope... Ils se disent, voilà, je suis comme ça, et donc du coup, je suis comme ça, et je ne bougerai pas, et je ne changerai pas. Ok Thierry, super, mais en fait, tu sais, on peut tous être amené à évoluer en fonction de tout un tas de trucs. Donc ça, c'était intéressant que tu remettes ce point-là, et ce qui me fait penser que, bah, voilà, effectivement, on est au début de ces assessments.
D'où l'importance de la restitution, tu vois, pendant la restitution.
Et de se confronter.
Oui, c'est ça, exactement, de pouvoir échanger. En plus, on vient de partager cette matière première ensemble, puisqu'on a travaillé ensemble, on a passé une journée à travailler ensemble dans différents cas de figure, tu vois. Et on revient aussi sur ce qu'on a partagé ensemble. Donc voilà, donc il y a la force aussi, finalement, de cette matière première partagée ensemble. Très clairement, quand on est en restitution, on est au début d'un coaching, en fait, déjà. Tu vois,
avec bien la sûr. Personne. Bien sûr. Et tu fais aussi de... Par exemple, quand tu vas... Alors toi, ce qui est intéressant, c'est que tu vas aller regarder des comportements observables. Mm-hmm. Ce n'est pas des comportements déclaratifs. C'est non. Des comportements observables. Exactement. Donc, est-ce que tu confrontes parfois avec des inventaires ou des questionnaires de personnalité ?
Alors oui, et puis même avec l'entretien, hein, parce que le premier exercice qu'on fait tous le plus fréquemment possible, c'est l'entretien de recrutement, ou tu vois, l'entretien même juste un échange. Et là, on va être sur du déclaratif uniquement. Donc, il y a une puissance, il y a une sacrée différence entre la personne qui est en entretien va te dire, moi, quand je manage, je suis très participatif.
Vas-y, montre.
Voilà, et puis quand tu lui demandes de faire et que tu es son collaborateur, et que toi, tu le ressens pas du tout comme ça. Voilà. Ouais, donc, c'est aussi la puissance de pouvoir partager, de dire, moi, à ce moment-là, mon ressenti, c'était ça en tant que votre collaborateur. Et c'est pour ça que je te parlais de feedback tout à l'heure, parce qu'en plus, ce genre de feedback-là, les gens n'ont jamais dans la vraie vie. Ton collaborateur ne vient jamais te dire, tu sais, à ce moment-là...
Tu manages très mal, Thierry.
Aurélien, quand tu m'as dit ça, finalement, je sentais que tu avais une idée derrière la tête. En fait, tu n'en avais rien à faire de ce que j'étais en train de te dire. Tu vois, ça ne viendra jamais dans la vraie vie, tu vois.
Ça peut arriver, mais il faut quand même avoir pas mal d'affirmations de soi pour pouvoir balancer un truc comme ça à son manager. Quand tu es plutôt junior, tu le fermes et puis t'avances, quoi.
Et puis, s'il n'y a pas une culture de feedback dans l'entreprise, c'est quand même assez compliqué. Donc, voilà, c'est ça aussi, cette richesse-là et cette... neutralité, objectivité, parce que nous, on n'a pas d'enjeu, en fait, tu vois, en tant que consultant d'assessment, on n'est pas dans l'entreprise, on est complètement neutre, complètement extérieur. Une chose que je n'avais pas précisé tout à l'heure, mais par exemple, je ne regarde pas les parcours des candidats qui me sont envoyés en assessment. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avant, je ne connais pas ni leur ancienneté, ni leur formation, ni quoi que ce soit. Donc, ça permet aussi de cette neutralité et cette acceptation aussi de la part du collaborateur ou du candidat.
Ok. Je vois que le temps avance. Si je fais une petite reformulation, t'as des clés, on a parlé de clés pour retenir les talents, d'assessment center, de brief en amont qui est hyper important sur voilà, quelle est la stratégie qu'on veut faire. Est-ce que c'est recruter, attirer, retenir, machin. Les mises en situation, la cartographie individuelle, la cartographie de la team, pour ensuite avoir des insights pour pouvoir mettre des actions en place de réorganisation potentielle, repositionnement, équipe, remotivation et tout. Ok. Je vois que tu as une expérience là-dedans qui est assez conséquente. On a parlé aussi de petits outils de Ninebox, d'Assessment Center, d'Assessment Questionnaire de Personnalité, Inventaire, du fait que c'est quelque chose qui est assez, assez récent. On a parlé de la différence entre l'US et la France. Alors, légèrement, on a survolé un peu le truc, mais c'était quand même assez intéressant de dire que bah, les US, ça recrute rapidement et ça vire rapidement. Si t'es pas sur tes objectifs. En revanche, dès que t'as passé la période d'essai, bah, une fois que t'es dedans, on t'accompagne, on est là, on te motive et machin, machin. En France, c'est sélection plus à l'entrée parce que, attention, c'est dur de se libérer d'un collaborateur. Donc, du coup, on fait un effort significatif à la sélection en entrée parce que, après, derrière, le processus de sortie est plus lent. Et donc, du coup, on laisse potentiellement pourrir des situations. Puis il y a tout l'administratif, et les gens n'ont pas le temps. Le français, il n'a pas le temps.
C'est ça.
Il n'a jamais le temps. Un Américain, quand j'appelle des Américains, il dit « Ah ouais, bien sûr, t'appelles le CEO de machin, etc. » Le gars, tu lui dis « je suis personne du tout, est-ce que t'as 15 minutes ?» Ouais.
C'est vrai. C'est
tu appelles n'importe qui en France, tu fais « T'as 15 minutes là maintenant ?» Il fait « Oh là, non, dans 3 semaines, je suis overbook, machin, machin, etc. » C'est méga courant, quoi. C'est un truc de fou. Hein.
C'est la raison pour laquelle j'ai adoré travailler aux US, pour être honnête.
Ouais.
Les clients te reçoivent tellement bien au téléphone en te disant oh, « Mais Virginie, mais merci de m'avoir appelé, j'ai pas de besoin pour l'instant, mais c'était trop sympa, je garde tes contacts, on se revoit plus tard, etc. » En France, c'est « Non, mais j'ai pas le temps, mais pourquoi vous m'appelez ?»
C'est ça. « Oh là là, ils vendent encore un truc. »
C'est
très rigolo. J'ai toujours une petite série de questions pour se projeter un peu dans le futur. Si toi, tu devais... réfléchir un peu quels sont les processus ou les pratiques qui vont disparaître demain en RH, selon toi.
Alors, je n'irai pas jusque-là parce que je ne suis pas devant, mais moi, je vois en tout cas les tendances qui s'annoncent. Et il y a une grosse lame de fond déjà depuis quelques années qui est là, qu'on a un peu essayé de camoufler, qui s'est beaucoup révélée avec le Covid. Enfin, il y a des espèces d'allers-retours qui se font, je trouve. C'est une hyper-individualisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs et un peu tout le monde dans l'entreprise veut du sur-mesure pour soi. Voilà. Et ça, c'est ce qui fait la complexité aujourd'hui des RH et des boîtes, en fait. Hein. C'est-à-dire que tout le monde veut quelque chose à la carte. Et tu t'imagines bien que les RH, s'arrachent les cheveux, hein, voilà, faut être clair. Les gens, je pense que c'est un contrebalancé du fait qu'il y a eu quand même des années et des années où, comme tu disais, la RH, on en est quand même à la préhistoire, hein, quelque part, des pratiques RH dans les entreprises. Il y a eu des années et des années où les gens se sont sentis finalement être qu'un numéro, voire encore, ça existe encore hein, dans plein de structures. Et ça, je crois que ça va être de plus en plus compliqué. Et ce qui est sûr, c'est que, effectivement, c'est en train de complexifier le travail des RH parce que chacun, aujourd'hui, veut quelque chose qui soit fait pour lui, que ce soit en termes de politique salariale, que ce soit en termes de politique d'accompagnement, comme je disais tout à l'heure, finalement, de parcours de compétences, de parcours d'évolution dans la structure. Et ça, les gens, effectivement, sont de plus en plus individualistes et veulent quelque chose qui leur ressemble. Et c'est aussi un renvoi en termes de matière, enfin, tu vois, en termes aussi de reconnaissance, en termes de feedback, tout ce que je te disais tout à l'heure. Et ça, je pense que c'est vraiment en train de complexifier les choses. Et demain, il faudra faire des choses à la carte. Et ça va être compliqué. Mais malheureusement, je pense que c'est vraiment ce qui se profile de plus en plus.
Et du coup, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faudrait inventer ?
Alors, la problématique, c'est que ça sous-entend, en fait, de ne plus vouloir imposer quelque chose d'unique à tout le monde. On parle beaucoup, bah, on a beaucoup parlé hein, du télétravail avec le Covid. Hein, tout le monde est passé à distance, ou beaucoup de gens sont passés à distance. Et puis, bah, y a eu le retour d'ascenseur où beaucoup de patrons ou de DRH ont dit bah, « on n'arrive plus à faire revenir les collaborateurs ». La problématique, c'est qu'aujourd'hui, bah, chacun va un peu s'organiser comme il veut. Et souvent, on se dit, bah, est-ce que c'est bien, on fait revenir tout le monde, est-ce qu'on fait à la carte, est-ce qu'on fait... En fait, la complexité de ça, c'est aussi que ça apporte de l'inégalité. Tu vois, les gens veulent du sur-mesure pour eux, mais ils sont aussi en train de regarder que le voisin, il n'est pas plus que eux. Tu vois, c'est là où je veux en venir. Donc là, c'est compliqué, en fait, c'est ça. Donc, à un moment donné, de toute façon, il faudra trancher. On ne pourra pas faire, de toute façon, du 100% individuel. Ça ne sera pas possible, c'est clair. Mais ça sous-entend quand même qu'il y aura des adaptations. Voilà. Et ça sous-entend aussi que ce soit les RH au niveau des managers, y a une tendance qui fait qu'ils ont intérêt d'être de plus en plus professionnels et de plus... Ben, les meilleurs possibles, en fait. Hein. Souvent, pendant le Covid... J'ai pas mal de mes clients qui me disaient « Ah oui, mais les managers, ils souffrent, etc. » J'ai dit « Oui, mais parce que ça se voit encore plus quand on n'est pas bon à distance. Voilà. » Donc, en fait, on est dans un environnement qui complexifie à peu près tout et qui rend les choses compliquées. Donc, c'est vrai qu'avant, bah, sur une compétence, si on n'était pas au top du top, ça pouvait peut-être encore passer. Aujourd'hui, ça sera de plus en plus complexe. D'où le fait qu'il va falloir absolument professionnaliser, accompagner les gens. Ça, pour moi, ça reste vraiment une clé pour demain.
Accompagner les managers, une clé. Si tu devais inventer quelque chose, toi, un outil qui te ferait gagner un max de temps, ça serait quoi ?
Waouh !
Ou qui te simplifierait la vie, tu vois, dans ton accompagnement.
Mon accompagnement ? Ouais. Alors, je pense qu'il existe déjà, c'est tout ce qui est la question. La question permet, en fait, la prise de conscience, permet de faire d'émerger des choses. En fait, c'est assez bizarre, mais tu vois, à chaque fois, mes clients me disent « Ah, mais est-ce qu'il me manque quelque chose dans mon outillage, tu vois, dans mes dispositifs, etc. » Et en fait, je me rends compte, à chaque fois qu'on se pose un peu sur ces problématiques de « Est-ce qu'il manque quelque chose ? Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose ?» etc. Non, en fait, il faut juste revenir aux basiques, mais bien les faire. Tu vois, revenir à des choses qui sont vraiment essentielles, qui marchent, mais quand elles sont bien faites. Et tu vois, la question, moi, c'est vraiment un outil que j'utilise, mais toute la journée, parce que c'est vraiment la clé, en fait. Tu en feedback, par exemple, en restitution, c'est à la personne de... Enfin, c'est bien sûr à toi, mais c'est à la personne de comprendre ce qu'elle est aujourd'hui, l'impact que ça a sur les autres, parce que sinon, tu ne la feras pas changer, toi, de l'extérieur. Donc, pour moi, vraiment, un outil que j'adore, auquel j'étais formée il y a... plus de 7 ans maintenant, c'est l'art de la question qui s'appelle la questiologie. Et ça, c'est vraiment un super outil. Ça, c'est mon outil favori, entre guillemets, si on peut l'appeler.
La questiologie,
c'est l'art de la question. C'est un vrai travail, une vraie réflexion sur la question qui a été initiée par un coach au départ qui s'appelle Frédéric Fallis et qui l'a vraiment travaillé, mais vraiment en profondeur. Et qui permet vraiment de, comme je disais, de travailler à la fois sur le fait de poser d'autres questions et donc d'avoir d'autres réponses. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont hyper préparés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose plein de questions tout le temps. Et pareil, en entretien, tu vas retrouver ça, tu sais, sur cet aspect déclaratif dont on parlait tout à l'heure. Finalement, tu vas avoir l'impression que la personne, elle t'a répondu, mais quelque part, j'exagère en disant ça. C'est pas que c'est pas une vraie réponse, mais c'est un peu une réponse quand même semi-automatique. Et c'est pas une réflexion profonde de ce qu'elle t'a dit. Et la questionnologie, c'est vraiment quelque chose qui t'amène à poser d'autres questions et d'avoir des réponses différentes.
Ou la personne, elle ne te répond pas du tac au tac, mais qui apprend un temps pour réfléchir.
Exactement. Parce que ta question, en fait, elle ne l'a jamais entendue précédemment, par exemple.
Genre quoi ?
Genre, alors ça va bien sûr dépendre de la situation, mais le fait de positionner la question autrement, avec des boosters de questions du type... quelle a été la meilleure expérience ou la pire, tu vois, ou votre principal échec ou ce genre de choses. Alors, celles-ci, elles sont assez connues et partagées, mais ça peut être des choses du type... une qui est assez d'actualité que je peux citer aujourd'hui, avec notamment ce qui s'est passé avec le Covid et les habitudes, on va dire, qu'ont pris les gens, c'est comment être épanoui dans une évolution dans un poste aujourd'hui ou une évolution de fonction tout en gardant son équilibre professionnel.
Okay.
Tu vois, et là, ça amène vraiment la personne à se poser les bonnes questions. C'est quoi mes priorités ? Ok, je veux un équilibre pro-perso, mais comment je fais aussi si j'ai des ambitions de carrière ? Tu vois, ça, c'est des questions qu'on se pose rarement, en fait, finalement. On les aborde rarement sous cet angle-là.
Ça, c'est des questions ouvertes ?
Alors, principalement des questions ouvertes, mais après, tu sais, on a tendance à dire, depuis qu'on est tout petit, avec, les questions fermées, c'est pas bien. Des fois, les questions fermées, c'est bien aussi. Je pense que, en fait, c'est plutôt augmenter la largeur de ton éventail de questionnements. Voilà. Et amener l'autre, encore une fois, à se questionner sur des choses où il n'est pas vraiment allé, en fait, précédemment.
Ouais. Et c'est, tu rajoutes une condition à ta question. Ouais, tu as dit comment alors, tu ferais ça dans cette situation.
Voilà, tout à fait.
Et si tu étais ça, par exemple.
Ça, voilà, ça peut être en rajoutant ce que Frédéric Fanny s'appelle des boosters des questions, mais ça peut être aussi en rajoutant un cadre, ce qu'il appelle les questions induites. Par exemple, c'est attends, faudrait que je t'en trouve une, là, comme ça, à froid, tu me prends un peu à froid.
Poser un cadre. Tu es un homme de 14 ans. C'est par exemple ça, je te pose un cadre, je te mets dans la peau de quelqu'un d'autre.
Alors, c'est pas exactement ça. En fait, il y a un super atout dans la question, c'est que la question, tu proposes une quête, tu proposes un chemin à quelqu'un. Quand tu l'as fait vraiment bien, tu lui proposes d'aller dans une certaine direction. C'est une arme qui est très, très puissante, la question. Par contre, il y a un piège dans la question, c'est qu'à chaque fois que tu poses une question, la plupart du temps, tu mets de toi dans la question. Et en coaching, on sait que on doit pas mettre de soi. C'est-à-dire que on doit accompagner aux côtés de la personne, mais on ne prend pas de décision, par exemple, pour le coacher. Donc, c'est Frédéric Fallis a travaillé sur finalement cette thématique de comment je peux aussi questionner sans mettre de moi, mais à des moments, tu as besoin de mettre de toi. Donc là, quand je disais mettre un cadre, c'est vraiment induire aussi ton opinion. Ça peut être, alors ça va dépendre de ton opinion, mais par exemple, c'est à quel point est-ce que ton départ de cette société, par exemple, si on est dans un cadre d'entretien de recrutement, était justifié ou était finalement la meilleure chose pour toi. Et tu, quand je dis ça, qu'est-ce que je sous-entends derrière, c'est que est-ce que c'était une bonne chose ou pas, tu vois. Voilà, donc tu induis en fait, tu orientes, tu induis en fait un cadre. Alors ça, c'est un petit peu difficile quand on n'a pas l'habitude de travailler la question, parce que ça nécessite d'être super au clair en fait sur ce que tu veux induire. Voilà. Donc il y a un petit préambule entre guillemets de travail à faire en amont. Mais voilà, mais je pense que il y a peut-être encore plein d'outils à créer, mais je pense que en fait il y a déjà une sacrée richesse qui est à disposition qu'on n'utilise pas pleinement, tu vois ce que je veux dire.
Toi, le digital, non, quoi.
Si, pourquoi? Si. Alors, complètement.
Mais sur cette question-là, tu vois, les gens me sortent toujours « Ah, j'aimerais une solution qui fait ci, un logiciel qui fait ça, une application qui fait mi. » Et du coup, là, toi, tu me dis « Non, moi, c'est la questionnologie. » c'est quelque chose d'humain, machin, donc je trouve ça cool, ça change de l'ordinaire en tout cas.
Alors c'est vrai que c'est ce que je fais au quotidien, donc je suis plus effectivement peut-être tournée vers ça. Après, mes collaborateurs, mes partenaires me disent toujours que je suis une vraie geek, donc j'ai des tonnes d'applications qui sont des vraies bips pour moi, dont je ne pourrais plus me passer. Donc si c'est le digital, j'y tiens beaucoup, je suis ravie d'être née à cette époque-là. Mais alors vraiment, je trouve que les gens ne se rendent pas compte de la richesse qu'on a à disposition, que ce soit avec les applis, enfin les outils qui existent aujourd'hui. Non.
Là, tu parles de quoi, par exemple?
Alors moi, dans ce que j'utilise le plus, je suis une fan d'Evernote. J'ai toute ma vie dans Evernote, je crois, depuis la création d'Apostrophe, tu vois, ça fait 14 ans que j'utilise Evernote. J'utilise d'autres applications de type Tilkey, je pense que tu dois connaître Tilkey.
Bien sûr, c'est l'ouverture des...
Voilà.
Tracking d'ouverture.
Exactement.
Sylvain Tillon, d'ailleurs.
Sylvain Tillon, qui est un de mes partenaires et un ami, effectivement. Voilà, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Ah non, moi, je suis une vraie fan. D'ailleurs, j'ai souvent des problématiques quand je travaille avec de nouveaux partenaires, parce qu'ils sont très surpris, vu la taille de ma structure, que j'ai autant d'outils à disposition. Voilà, mais alors moi j'adore ça, je ne pourrais pas m'en passer.
Et si tu devais trouver ton prochain outil qui te permettrait de résoudre une problématique ou d'aller plus vite sur un machin, ça serait quoi?
Alors vraiment le truc rêvé de rêver...
Le dream of the dream.
Voilà, vraiment le truc rêvé de rêver, c'est répondre à une grosse problématique que malheureusement on ne peut pas adresser quand on est tout seul humain, entre guillemets. C'est de pouvoir faire une réponse personnalisée à 250 candidatures reçues à une annonce, tu vois. Et de dire à chacun, vous n'êtes pas retenu pour telle et telle raison. Et ça, malheureusement, on n'a absolument pas le temps et ni les moyens de le faire, quoi. Donc, on fait une réponse, malheureusement, un peu bateau. Voilà. Alors, des fois, moi, je l'explique. Des fois, j'ai la personne qui m'appelle ou des fois qui me fait un petit message sur LinkedIn, donc je peux lui dire. Mais c'est vrai que sinon, je ne peux pas me permettre de prendre le temps... de faire 250 mails, t'imagines bien, ou 350 parfois, hyper personnalisé en disant, non, vous n'avez pas été retenu pour ce point-là. Parce qu'en fait, souvent la personne, et je peux tout à fait le comprendre, j'ai été aussi candidat, je crois qu'on l'a tous été, on a tous été de toute façon un peu des deux côtés, on va dire, de la barrière. Mais c'est vrai que quand on est candidat, on a On a tendance à prendre le refus un peu personnellement contre soi. Parfois, c'est juste le cahier des charges de notre client qui colle pas, quoi. Et c'est comme ça. Et voilà, il y a rien à prendre contre soi. Ça remet pas en, tu vois, ça remet pas en cause l'expertise, l'ancienneté, enfin voilà, ou des compétences. Voilà, ça serait mon outil un peu rêvé. Alors, je sais pas si c'est une
réponse personnalisée à chaque candidature.
Ouais, c'est ça.
Non retenu, du coup.
Ouais, non retenu.
Ok. Tu connais Yago ou pas?
Alors, j'en ai entendu parler, mais jamais utilisé.
De Géo, c'est Mathieu Penet.
Ok.
Inès Bloch qui font ça. C'est un service, c'est pas une solution par contre.
D'accord.
C'est un service où ils appellent à ta place les candidats non retenus, ils leur expliquent pourquoi, etc. Donc, ils occupent des grosses boîtes qui ont du gros volume pour justement garder une belle marque employeur, etc.
Ouais, je comprends.
Donc c'est un service effectivement qui a son intérêt. Donc effectivement c'est un point noir des RH. Mmh. Ok. Et si tu devais donner un nom à cet épisode, ça serait quoi?
Waouh, la gestion des talents.
Juste la gestion des talents.
Oui, je dirais ça. Et...
Ok. La gestion des talents avec Virginie Graziani. Consultante RH et experte en gestion des talents, du coup.
Exactement.
Voilà. Ok, est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, que tu aurais voulu aborder? Tu te dis, tiens, ce truc-là, on ne l'a pas abordé, ça serait
cool. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui t'intéresse, c'est l'analyse du non-verbal.
Ouais.
J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec
la démarche et tout ça, mais après, on est en podcast, donc est-ce qu'on peut faire ça en...
Alors oui, déjà, je peux peut-être répondre à tes premières questions parce que c'est souvent un sujet qui titille en fait, qui questionne.
Alors attends, c'est quoi? Je vais chercher tous les trucs précarés qui existent. Les bras croisés. Ça veut dire quoi?
Alors, dans le corps, de toute façon, on a beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle des gestes de protection. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets quelque chose entre toi et moi, et là, effectivement, tu mets tes bras, même pour ceux qui ne voient pas, je décris un petit peu ton geste, tu mets tes bras finalement entre toi et moi, forcément, c'est un geste de protection. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un geste de fermeture, ce que les gens, effectivement, ont tendance à avoir comme type de stéréotype, en fait, tout simplement. Ça peut être que tu es en réflexion. Aussi, du coup, mais que tu en écoutes, là c'était ce que tu faisais, tu vois, tu étais à mon écoute, en écoute plutôt active d'ailleurs. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de stéréotypes sur le langage corporel, ou ce que tu m'as fait tout à l'heure en disant, oh là là, à partir du moment où tu es formé à ça, faut plus que je bouge, faut plus que. Non, il n'y a pas de. Je dis souvent, il n'y a pas de crainte à avoir en fait par rapport au non-verbal, parce que ce qu'on va détecter, c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est-à-dire que c'est une incohérence. On est câblés, les êtres humains, depuis toujours, 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 de par notre instinct de survie, à détecter le non-verbal de chez l'autre. Mmh. C'est comme ça.
Toute on sent journée, qu'il y a un machin qui ne va pas.
Exactement. Toute la journée, il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce. Ton cerveau va checker sans te demander, de manière totalement consciente, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est un ennemi, pour savoir ce que tu dois faire. Parce qu'il y a cet instinct de survie. Donc, j'ai tendance à dire, c'est un peu mon message à faire passer là-dessus, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est ce qu'on est, de toute façon. Et après, deuxième chose, parce que ça, c'est vrai aussi, c'est un joli stéréotype là-dessus, on ne contrôle pas ses gestes. Par contre, on contrôle ses pensées, on contrôle l'intention qu'on veut mettre dans la relation, ce genre de choses. Voilà. Et du coup, l'intention, par exemple, va permettre de faire décliner le registre de gestes qui va avec l'intention que tu portes. Si j'ai envie que ça se passe bien entre nous deux, tous mes gestes vont faire que j'ai envie que ça se passe bien. Voilà. Et je ne vais pas avoir besoin de me dire, il faut que je fasse ça ou ça, ça. Voilà.
Okay.
Donc, il faut arrêter d'avoir peur de ça, que ce soit en entretien, en assessment, ou quelle que soit la situation.
Et je pense que c'est aussi ce truc-là, tous les gestes un peu parasites, où tu vois que ça ne va pas bien, tu le vois tout de suite, quoi.
Bien sûr. Une personne
qui n'est pas à l'aise, tu le vois tout de suite. Et c'est aussi la peur du jugement. Ce fameux biais de désirabilité sociale, on est passé, vite dessus, finalement.
Tout à fait. Mais tu vois, encore une fois, le stress est cohérent à des moments. C'est pas forcément parce qu'un candidat est stressé que tu vas le refuser, entre guillemets. Tu vois.
Il mesure que c'est un enjeu pour lui, capital.
Exactement, voilà. Mais après, comme tout à l'heure, tu me parlais de mesure et d'échelle, si la personne est hyper stressée, tu es en fin d'entretien, que par exemple, moi, si ça m'est arrivé une fois avec un candidat, tu lui dis qu'il va rencontrer ton client et qu'il continue à stresser, que tout s'est bien passé, tu dis un truc qui ne va pas. Là, n'est alors à l'incohérence. Mais voilà. Mais par contre, en début d'entretien, tout le monde est stressé. Enfin, c'est pas quelque chose de complètement incohérent.
Bien sûr, après, les gens aussi trop détendus.
Oui, oui, effectivement. C'est qu'il y a aussi quelque chose qui ne va pas, entre guillemets. Les extrêmes ne sont jamais bons, d'une manière ou d'une autre.
Ouais.
Ça peut être effectivement que la personne ne prend pas assez les enjeux de la situation. Ou, Tu sais, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un post sur LinkedIn qui m'a fait beaucoup rire. C'était un recruteur qui listait un petit peu tous les profils de candidats possibles. Et il en avait, entre guillemets, oublié un, parce que je pense que la liste n'est pas exhaustive. Et je lui disais que moi, le pire pour moi, entre guillemets, profil, c'est celui qui arrive en entretien et qui t'explique ton métier, qui veut faire l'entretien à ta place. Et qui t'explique comment tu dois le questionner, sur quoi tu dois l'interroger, etc. Bon, ben voilà, il y a un moment donné, si tu le fais une fois, ça passe. Si tu fais ça pendant une heure et demie, t'imagines bien que lui aussi, il appréciera peut-être pas qu'on vienne lui dire comment faire son métier. Donc voilà, c'est toute une question d'équilibre. Et dans le langage corporel, c'est exactement la même chose.
Se toucher le nez.
Oui, ça va dépendre où.
C'est quoi?
Ah, il y a à peu près 15 positions sur le nez.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, ok. Bon, ça ou ça, c'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil, effectivement. D'une manière générale, quand tu vas avoir un toucher qui vient sur tes sens, en fait, les organes liés à tes sens, par exemple les yeux, le nez, l'oreille, etc., si tu vas avoir tendance à obstruer le sens, c'est-à-dire, par exemple, tu touches ton œil et du coup, tu fermes ton œil, tu grattes l'intérieur de l'oreille et donc tu te bouches l'oreille, et bien, ça va être que tu ne veux pas que ton sens marche. Donc, par exemple, je n'ai pas envie d'entendre.
Si tu te bouches le nez comme ça,
c'est que tu ne le sens pas. Parce que tu ne veux pas sentir, en fait. Tu vois, ton geste vient, en fait, paralyser ton sens.
Ok. Mais en général, quand tu parles, enfin, quand tu es avec quelqu'un, tu fermes la bouche quand tu l'écoutes.
Oui.
Tu ne la laisses pas ouverte. Enfin, je ne sais pas.
Mais par exemple, tu vois, si tu vas venir faire ça, la plupart du temps, c'est parce que tu es en écoute. Hein, bien entendu, si tu viens mettre ton doigt devant la bouche, c'est que quelque part, tu t'empêches de parler parce que tu es à l'écoute. Hein, tu te retiens de parler parce que tu es à l'écoute. Voilà. Dès que tu vas venir...
Et se gratter la tête, alors?
La tête, alors, toutes les zones, en fait, surtout du visage, hein, mais d'une manière assez générale, le langage corporel, c'est très symbolique. C'est-à-dire que toutes les zones vont correspondre à une zone symbolique. La tête, le front, c'est la réflexion. Si tu te grattes la tête, c'est en train de chercher une solution.
Ok, c'est intéressant. Donc, et se gratter le menton, comme ça? C'est très très intéressant.
Alors ça va dépendre où tu vas être dans le menton. Encore à chaque fois, il y a à peu près une dizaine de positions sur chaque organe, donc c'est là où c'est compliqué. Plus tu vas être en bas, plus tu vas être dans la zone du doute. Voilà. Mais tu peux être en doute et en écoute active. Tu vois, par exemple, si je fais comme ça, là, avec le pouce juste sous le menton, ça veut dire que j'attends la suite, en fait. Donc, ce qui est compliqué aussi dans le langage corporel, c'est de mettre les mots sur quelque chose qui n'est pas justement verbal. Et donc, souvent, les gens s'attendent un peu à un dictionnaire de « vas-y, traduis-moi exactement ce que ça veut dire ».
Ouais, ça n'existe pas, en fait.
Ça n'existe pas. Okay. Il faut que tu l'adaptes aussi à la situation, surtout que l'être humain est très complexe. On est toujours en train de faire plusieurs choses, même dans notre tête. C'est ce qu'on appelle les différents espaces mentaux dans lesquels on est. Et tu vois, là, on est en train de se parler, et peut-être que d'un seul coup, dans ma tête, sans que je fasse exprès, il va me traverser une pensée que oh, j'ai oublié de fermer le garage ce matin, je sais quoi, pas quoi, mais tu vois qu'il n'a rien à faire finalement. Non.
Et ça va parasiter, ça va faire un geste un peu chelou.
En tout cas, toi, tu vas te dire, mais tiens, c'est lié à notre conversation, mais en fait, pas du tout. D'où le fait, je retombe sur mon fameux questionnement, d'où le fait qu'à un moment donné, où il va falloir de toute façon que tu questionnes la personne.
Ok, donc... Est-ce que tu as fait ça pour ça? Non, plus du tout, j'étais en train de penser à mon garage.
Alors par exemple, là, tu vois, ça peut être, là je me sens un peu tendue d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? C'est lié à ce qu'on est en train de se dire ou autre chose, tu vois?
Ouais. Voilà.
Alors, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est difficile parfois de faire un feedback sur les gestes parce que la plupart de nos gestes sont soit inconscients, soit ce qu'on appelle mi-conscients. C'est-à-dire, par exemple, là, tu viens de faire ça, donc je dis pour nos auditeurs.
J'ai gratté la lèvre du chip, parce que ça
avec le pouce, qu'est-ce exactement. Que c'est non, mais c'est pas ça. Ce que je voulais en venir, c'est que là, du coup, quand tu l'as fait, tu n'as pas dit à ton pouce, gratte ma lèvre. Tu vois. Par contre, quand je te le dis après coup, tu te rappelles que tu l'as fait. C'est ce qu'on appelle un geste mi-conscient. C'est-à-dire qu'après coup, tu peux t'en rappeler, mais tu ne l'as pas ordonné à ta main. Donc, en fait, c'est ça la difficulté quand tu vas faire un feedback à quelqu'un sur son geste, c'est que des fois, il ne va pas le savoir ou il ne va pas s'en souvenir. Donc, il vaut mieux dire, tiens, là, je vous sens tendu, par exemple, ou je vous sens dubitatif, est-ce qu'il y a quelque chose que je vous ai dit qui n'est pas clair ou ça vient d'autre chose, etc. Tu vois, vraiment, là, ouvrir à la personne qu'elle ait l'occasion de s'exprimer sur ce que tu as ressenti.
Ok, donc, et quand on dit oui à un menteur, en fait, il touche son visage ou machin, c'est pas forcément ça?
Non, c'est pas forcément ça. C'est beaucoup plus complexe, le mensonge. Oui, tout à fait. Non, là, c'est...
Ok, parce que ça, c'est le truc typique que les gens se posent. Ah, il a gratté son nez. Il a gratté son oreille.
Oui,
gratté,
il a gratté. Il regarde pas en face, donc il a le regard fuyant, donc il ment.
Il regarde à gauche, il regarde à droite.
Voilà, c'est ça. Oui, non, non,
ça, ça n'a rien à voir aussi.
Non, ça marche. Enfin, c'est pas, comment dire, ce n'est pas forcément ça systématiquement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de non-dits plutôt que de mensonges, d'ailleurs, dans le comportement qu'on va pouvoir avoir, c'est-à-dire quelqu'un qui se retient de dire quelque chose, quelqu'un qui retient une émotion, tout ça aussi. Il y a plus de ça que de mensonges qu'on peut percevoir déjà chez un être humain. Puis après, il faut bien définir de quoi on parle quand on parle de mensonge. C'est-à-dire, est-ce que c'est une intention de mentir ou ça a été une omission, tu vois ? Enfin, il y a plusieurs registres, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de se mettre d'accord aussi.
Une personne qui se bouffe les doigts.
Bah, c'est souvent du stress.
Ouais.
Stress dans la relation à l'autre, dans l'échange qu'on va avoir, parce que bah, les mains vont être ce que je partage avec toi, tu vois, c'est une offrande. Plus je l'étends vers toi, plus je suis ouverte, et plus je les mets vers moi, c'est un retour en moi.
Ok, donc du coup, quelqu'un qui va se manger les ongles, tout comme ça.
C'est du stress.
C'est du stress.
Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, tu vois, c'est que souvent d'une personne à l'autre, en fait, on n'a pas les mêmes gestes. C'est-à-dire que bah, moi, je peux effectivement manger les ongles pour être stressée, et puis quelqu'un d'autre peut se gratter, par exemple, le cuir chevelu. Tu sais, t'as des gens qui vont jusqu'à saigner ou perdre des cheveux de stress. Mmh. Donc, c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que tu vas retrouver, tu peux avoir, par exemple, les mêmes personnes dans une pièce, il se passe quelque chose, un événement un peu important, et si tu filmes la pièce, finalement, et l'ensemble des gens, tu vas avoir des réactions peut-être similaires et d'autres différentes. Mmh. Parce qu'on ne réagit pas tous de la même manière, par exemple, à un stimuli, à quelque chose de stressant, etc.
Et l'analyse de la démarche, c'est quoi ? C'est marcher ?
Oui, tout simplement. D'accord. Tu regardes quelqu'un marcher.
Le balancement des bras.
Alors,
et les jambes.
Ouais. Alors, c'est vraiment tout. Non. Ouais. C'est vraiment de la pointe des pieds. En passant par comment tu poses la semelle, comment tu lèves le pied, comment tu déverrouilles ton genou, donc comment tu le plies où il va être tendu, comment tu balances ta jambe, comment tu balances les bras, la position du buste, axe tronc-tête, du coup, tes trajectoires optiques quand tu marches. Non, mais c'est vraiment, il y a vraiment tous les détails du corps.
Et ça, tu l'as appris où, du coup, l'analyse de démarche et l'analyse comportementale ?
Ouais, alors, j'ai eu la chance de rencontrer un expert qui travaillait depuis 30 ans sur l'analyse de la démarche et de la poignée de main. Et ça a été justement un peu le révélateur pour moi, parce que j'avais toujours été hyper observatrice. Je me disais, mais c'est bizarre, il y a un truc qui se passe, tu vois, je voyais ça. Et puis, par contre, je voyais que mes confrères, ça ne les intéressait pas du tout. Ils me disaient, mais pourquoi tu regardes ça ? Et moi, je voyais plein de choses qui se passaient et j'avais envie d'aller plus loin, mais je ne savais pas du tout que c'était une discipline. Et un jour, mais complètement par hasard, je rencontre ce gars qui s'appelle Axel Boucher. Et voilà, ça a été une vraie révélation. Je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment des gens qui s'intéressent à ça. Et c'est ce qui a été, bah, du coup, ma première formation sur l'analyse de la démarche, sur la poignée de main. Et puis après, bah, je suis allée voir plus loin parce que du coup, ce qui est assez marrant dans ce secteur d'activité, entre guillemets, on va dire dans cette discipline, qui est alors là encore plus récente que tout le reste qu'on citait tout à l'heure, hein, parce que ça a à peine une trentaine d'années, surtout en Occident.
C'est encore plus récent.
C'est encore plus récent. Ce qui est très marrant, c'est que chacun fait ses études un peu dans son coin et va étudier vraiment un peu un espèce de cadre. Il ne sort pas de son cadre. Donc, bah, voilà, j'ai eu la chance d'être formée à l'analyse de la démarche et de la poignée de main. Je suis allée voir du côté des synergologues pour avoir tout ce qui va être dans la relation. La synergologie, c'est aussi une discipline du langage corporel et de l'analyse corporelle. Et puis, il y avait aussi Paul Ekman. J'ai fait la formation issue des travaux de Paul Ekman qui a travaillé sur les émotions, sur la véracité et crédibilité. Donc voilà, donc pour avoir une vision globale, j'ai été obligée de faire effectivement plusieurs parcours de plusieurs formations pour avoir l'ensemble des éléments, parce qu'ils ne se parlent pas forcément entre eux, et certains sont très connus, d'autres pas du tout. Donc voilà, donc il faut fouiller un petit peu pour avoir une démarche plus globale.
Ok. C'est quoi la question qu'on me pose le plus souvent sur l'analyse comportementale ?
C'est « Ah, mais en fait, vous allez tout voir.
» Ok.
C'est vraiment ça. C'est « Qu'est-ce que vous allez voir ?»
Ok. Et les gens, ils se posent, et les gens, ils se posent quoi comme question sur je sais pas, ils te demandent quoi. Par exemple, moi, je te posais des questions sur « Est-ce que se toucher le visage ?» Ça, c'est... Alors, des questions classiques ?
Ouais, les questions de toucher du visage, les bras croisés.
Ça, c'est une question classique.
Alors, le mensonge, on adore ça. Mensonge, séduction. C'est les deux
domaines.
Ah,
séduction, mais ouais, j'ai pas pensé à la séduction.
C'est les deux domaines où l'être humain est friand de langage corporel, très clairement. Et après, alors, les entreprises, c'est-à-dire que bah, dans le cadre d'assessment center, etc., là, l'idée, c'est effectivement de valider, si tu veux, que le langage corporel, il est aligné aussi avec ce qu'on voit avec nos autres outils de mesure et d'évaluation des dimensions. Mais quand c'est vraiment la personne en tant que telle, Les demandes, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un retour de ce qu'on peut observer, c'est finalement quelle trace je laisse et dont je ne serais peut-être pas tout à fait au courant à 100% et que pourtant les autres perçoivent et donc une meilleure connaissance de soi avec cet objectif, voilà, une meilleure connaissance de soi.
Ok.
Ils sont souvent assez scotchés en fait, c'est très très bluffant la démarche.
C'est intéressant, faudrait qu'on creuse le sujet de la démarche, peut-être en off sur ce podcast. Désolé les gars, vous n'aurez pas accès à ça. Mais peut-être que je ferai un épisode spécial si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez écouté jusque-là et si vous voulez qu'on déroule ce sujet-là. Bon, allez, si la question sur la séduction, là. Se toucher les cheveux. Moi, ce que j'ai entendu, alors les trucs, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu que les femmes, si elles lèvent les bras ou si elles touchent les cheveux, ça, c'était qu'elles étaient intéressées.
Alors là, ça va vraiment dépendre du contexte.
Rien à voir. Chou blanc, donc. ok, mais c'est quoi les comportements de séduction?
Alors, les comportements de séduction vont surtout être sur le visage. Là, tu n'as pas faux, effectivement, avec les cheveux, avec la bouche, forcément, qui est le lieu à la fois de la parole, mais du plaisir, puisque lui aussi, qui te permet de respirer, de vivre, de te nourrir. Donc, la bouche est souvent une zone très, très importante. Et puis, on connaît tous le papillonnement des yeux, les regards langoureux. Il n'y a pas de grande révolution, entre guillemets, sur...
Le regard insistant.
Alors, ouais, ça va dépendre, effectivement, si la personne... Des fois, c'est qu'elle a complètement décroché, qu'elle n'est plus là non plus. Mais ça va vraiment dépendre, en fait.
Le regard insistant, c'est qu'elle a décroché.
Ouais, des fois, en fait, tu vas voir quelqu'un qui ne va plus du tout cligner des yeux. Et en fait, c'est que la personne, elle est partie. Ou soit elle n'a pas compris, soit elle est dans sa tête. Et toi, tu crois qu'elle te regarde, puisque elle est comme ça, en fait, tu vois, en posture. Okay, mais en fait, il y a autre chose derrière, entre guillemets, voilà.
Elle est dans les choux, quoi.
Elle est un peu dans les choux, effectivement. Donc, je pense que la séduction, il y a effectivement le langage corporel, mais il y a plein de choses aussi qui sont assez révélateurs et indicateurs. Encore une fois, on est assez bien câblé hein, pour décrypter ça au naturel, tu vois, sans avoir besoin de se former.
On a un décodeur naturel.
Exactement. C'est une grande richesse.
Bah ouais, carrément. Mais après, savoir l'écouter, savoir le verbaliser, c'est autre chose.
C'est ça. Et puis parfois, tu sais, on a tous vécu ça. Tu as capté quelque chose, tu l'as vu, hein, tu l'as capté.
Tu sais pas quoi.
Ou tu te dis non, mais tu le laisses passer. Puis après coup, quand tu dis ah, mais en fait, j'avais vu ça. Tu vois. L'affectif a beaucoup rentré en ligne de compte, en fait. Est-ce que tu as vraiment envie de voir? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller au bout de l'évaluation de la personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui compte pour toi ou un collaborateur ou tu as un certain historique et du coup, tu vas passer sur quelque chose que tu as pourtant vu? Tu vois, donc moi, j'ai l'habitude de dire que pour moi, de toute façon, le non-verbal, ça fait vraiment partie d'une communication globale. Et si tu n'as pas préparé cette communication globale, est-ce que tu es prêt à recevoir, à accueillir l'autre, vraiment, pleinement, dans toutes ses dimensions? Tu vas passer à côté alors qu'en fait, tu l'as vu quand même.
Ouais, Et après, on est vraiment hors scope du podcast. Hein. On n'est plus du tout dans le timing là. Sur le non-verbal, quand tu associes par exemple une analyse de personnalité avec une mise en situation, tu retrouves potentiellement les mêmes résultats. Si tu trouves des résultats différents, là tu te dis ok, il y a un souci.
Alors, c'est très rare de trouver des résultats différents. Pour être honnête, je réfléchis, mais je ne crois pas que ça se soit arrivé.
Tu arrives à détecter, par exemple, le disque de quelqu'un, le MBTI de quelqu'un, le RISC ou le ProcessCom de quelqu'un?
Ça se voit assez rapidement. Après, ce que tu peux détecter, c'est des choses plus conjoncturelles. Par exemple, parce que ça arrive à tout le monde, un candidat, tu dis, tiens, il y a deux, trois trucs qui ne vont pas trop. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? C'est des petites incohérences là. Et à la fois, il est très lisible sur le reste et c'est assez cohérent. Et tu vois, ça m'est arrivé dernièrement avec un candidat qui venait de perdre son papa. Et du coup, ça ressortait avec ces petits symptômes-là, si je peux appeler ça comme ça. Voilà. Okay. Donc, effectivement, d'où le fait qu'il va falloir que tu retournes dans le questionnement, comme je le disais tout à l'heure, pour savoir si effectivement, c'est toujours comme ça, si c'est ponctuel, à quoi c'est lié, etc.
Il y a ces événements de vie aussi, on n'en a pas parlé, mais effectivement, il y a des éléments de vie environnementaux qui vont avoir une influence, alors à la hausse, à la baisse, sur les dimensions. Il y en avait 6 de référencés, je crois. C'était union, enfin mariage, mm-hmm, quoi. Mm-hmm. Enfin, union. Ouais. Séparation.
Séparation, forcément.
Naissance, décès. Mm-hmm. Changement de vie, de situation géographique. Oui, et changement de situation professionnelle.
Ouais,
et ça, ça avait des impacts, alors pas immédiats. Mais du coup, vu que ça réorganise l'environnement autour de la personne, bah, du coup, ça la contraint ou pas, ça la contraint ou ça la libère sur certains trucs. Mmh. Et du coup, ça organise son environnement et la personne se réadapte à ce machin.
Tout à fait.
Donc finalement, en fait, on évolue. Et t'en as parlé tout à l'heure, je reviens là-dessus, mais
ouais.
Sur le suivi pendant 25 ans des gens, c'était quoi les, par exemple, les dernières questions, hein, c'est quoi les 3 insights de cette étude-là sur les 25 ans?
Alors, c'est en fait le taux de prédictibilité, finalement, de la photo qui a été réalisée pendant l'assessment center. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui avait été prédit comme étant des forces ou des axes à développer, ça s'est révélé être ça. C'est la fiabilité aussi. Et puis, l'acceptabilité. Alors, l'acceptabilité, la fiabilité, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Hein, ça marche pour les inventaires de personnalité, etc. L'acceptabilité, c'est une notion un peu plus peut-être floue. C'est en fait la capacité pour le collaborateur ou candidat à accepter ta restitution, ton débriefing, encore une fois, parce que du coup, il y a eu cette séance de travail ensemble qu'il a été évalué sur des choses factuelles, par exemple, pas sur un diplôme, pas sur son historique, tu vois, de ancienneté dans la structure, ou qui il connaît, ou les jeux de pouvoir qu'il a pu utiliser, etc., en interne. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, c'est ces 3 piliers-là.
Une personne qui te dit « Ah non, mais ça, c'est pas du tout moi, ça, machin... » Ça, c'est un taux d'acceptabilité très, très bas.
Taux de remise en question très, très bas, surtout.
Taux de remise en question très, très bas. Comment tu fais dans un feedback quand tu as quelque chose, par exemple? Tu as dit tout à l'heure, il y a des points forts, des points forts. Donc, en général, les gens, ils sont plutôt d'accord avec leurs points forts.
Pas vrai. Il y a des grosses surprises, en fait. Comme je te disais tout à l'heure, des fois, il y a des gens, ils n'ont pas eu de feedback pendant des années. Et en fait, ils ont eu des feedbacks erronés. C'est-à-dire qu'ils arrivent et me disent « Ah, mais moi, je sais que je suis super fort là-dessus parce qu'on me l'a dit et que je suis super mauvais là-dessus parce qu'on me l'a dit. » Et tu sais, en fait, ils se sont collés, ou leur manager, ancien manager, leur ont collé des étiquettes qu'eux ont conservées. Donc, c'est très surprenant. Alors, très honnêtement, on ne sait jamais comment une restitution va se passer. Tu as des candidats qui sont très fermés au départ, qui... Alors, l'idée, c'est de toute façon, c'est un échange. Hein. Il y a des fois, ils nous disent « Je ne me reconnais pas là-dessus, ce n'est pas significatif. » Et on l'accepte totalement parce qu'il y a aussi des indices qui nous montrent qu'on a besoin de le confirmer.
Mmh.
Et puis, il y a des fois, on démarre des restitutions, on se dit, ça va être compliqué. Et finalement, en fait, la personne, contre toute attente, en fait, se s'ouvre parce que, encore une fois, la grande force de l'assessment center, c'est de pouvoir revenir sur cette matière partagée en disant, vous voyez, dans la réunion à ce moment-là, vous avez dit ça, vous avez fait ça, voilà comment on a réagi, etc. Donc, en fait, on s'appuie sur cette matière qui est à la fois factuelle, qui est difficilement questionnable, entre guillemets, puisqu'il a vu avec nous ce qui s'est passé. Donc du coup la personne effectivement va quand même aussi il y a une autre chose pardon que j'étais en train d'oublier, c'est que parfois quand la personne se rend pas tout à fait compte, nous on va remimer ce qui s'est passé, par exemple dans la même mise en situation en disant bah voilà à ce moment là vous avez dit ça, nous on a réagi comme ça, etc., mais en le disant vraiment.
Ouais.
Et puis aussi on va pour lui montrer qu'il y a d'autres champs des possibles, parce que c'est souvent ça en fait qui fait que la personne elle reste un peu coincée sur ce qu'elle pense, on va aussi remimer d'autres possibilités qu'elle aurait pu faire pendant la réunion, par exemple pendant l'entretien avec son collaborateur. Et du coup, là, ça ouvre aussi un peu les perspectives du candidat ou du collaborateur qui se rend davantage compte des autres façons qu'elle aurait eu de faire et des autres impacts sur le collectif.
Ok. Et dans les axes d'amélioration, c'est par exemple... C'est tendance à être, je sais pas, à l'arrogance têtue ou genre machin.
Alors, ça peut aller, mais alors vraiment du plus petit truc, entre guillemets. Par exemple, quelqu'un qui va avoir tendance à pas structurer sa prise de parole. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment où il veut aller. Il ne donne pas de sens. Tu vois, des choses vraiment un peu anodines.
Ouais, des personnes qui parlent sans arrêt, sans avoir de but. Ça, c'est...
Ou qui ne restituent rien du tout. C'est pareil, tu vois, tu as l'impression d'être à l'aveugle avec elle. Ça peut aller sur l'écoute, la communication, quelqu'un qui ne reformule jamais. Là aussi, ça peut être un peu pénible pour le collaborateur en face. Donc, des fois, c'est vraiment plutôt des outils un peu techniques, tu vois, qui s'apprennent vraiment des méthodes, soit de structuration, par exemple de questionnement, des techniques de négociation, des techniques de reformulation. Enfin, ça peut être plein de choses comme ça où c'est des petits outils qui s'apprennent, tout simplement. Et une fois que tu les pratiques et que tu as pris l'habitude de les pratiquer, bah, c'est exponentiel au niveau de l'effet que ça peut produire. Et puis des fois, c'est effectivement un petit peu plus ancré en termes aussi de tempérament. Par exemple, ça peut être un manager qui va avoir une tendance plutôt dirigiste, voire autoritarisme, où là, bah, effectivement, il va falloir plus de travail, ou quelqu'un, par exemple, qui manque d'affirmation de soi, et là, pareil, on sait que c'est beaucoup de travail derrière, pour que, bah, voilà, il soit à l'aise dans son poste. Souvent, c'est des postures où il y a besoin d'une certaine affirmation, par exemple, un manager qui doit savoir dire non, et que lui, il n'y arrive pas pour plein de raisons. C'est aussi la force de l'assessment, c'est que si tu veux, plutôt que de s'arrêter au constat, où tu vas dire au collaborateur ou au candidat, bah, vous ne savez pas dire non, bah, il repart chez lui avec ça, tu imagines qu'il ne peut pas bien en faire grand-chose. L'idée, c'est que l'assessment, ça nous permet vraiment d'aller comprendre, décrypter les mécanismes sous-jacents, c'est-à-dire pourquoi il en arrive à ne pas dire non. Et du coup, il peut travailler en fait sur ce qui se passe en amont et qui fait qu'il arrive à ne pas dire non. Donc, c'est beaucoup plus efficace aussi en termes de développement derrière.
Tu utilises la matrice management de Likert, là, tu sais, les management participatifs, influents, oui. Directifs, délégatifs.
Alors, ça nous arrive effectivement pour montrer à certains, comme je disais, à certains collaborateurs qui pourraient faire autrement, que ça va dépendre de la situation managériale, ça va dépendre du profil qu'ils ont en face, etc. Donc oui, là, on l'utilise à titre pédagogique, en fait, plus comme ça en restitution, par exemple.
Et tu places les gens... Est-ce que, en général... Alors, question, est-ce que les gens aiment bien être managés de la manière dont ils manageraient?
Alors, c'est très aléatoire. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, ils projettent sur l'autre leur cadre de référence. C'est-à-dire que parce qu'eux, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça pour les autres. Parce qu'eux, ils sont motivés par ça, il faut que ce soit, les autres soient aussi motivés par ça.
Bah oui.
Il y a cette aisance, en fait, on se dit, bah, naturellement, moi, je suis comme ça, donc je vais projeter ça sur les autres. Donc ça, c'est sûr, effectivement.
Donc un manager directif aime bien qu'on manage de direct. De
ça directif. Va dépendre encore une fois avec... Alors, la plupart du temps, oui, mais il y a quand même des exceptions parce que la personne qui est directive, parce que par exemple, il a un refus de l'autorité, etc., il ne va pas accepter aussi quelqu'un de directif au-dessus de lui.
Ouais, donc, il y a du directif mais autonome en dessous.
C'est ça, on ne peut pas...
Enfin, autonome au-dessus et directif en dessous. Quoi.
C'est ça, on ne peut pas vraiment faire de généralité. Ça aussi dépend du tempérament et du vécu de la personne.
Et ça, c'est, ça vaut pour le directif. Le participatif, il aime bien qu'on... être participatif en dessous et au-dessus, non ?
Oui, la plupart du temps, effectivement, mais il faut voir si c'est un vrai ou un faux participatif. Comme je disais tout à l'heure, la majorité des gens sont participatifs parce qu'en fait, ils manquent d'affirmation de soi. Et ils ne vont pas savoir dire non, ils ne vont pas savoir voilà, cadrer, etc. Donc, ils vont aller vers du participatif, pardon, parce que quelque part, c'est un peu plus facile à gérer au niveau du courage managérial dont on parlait tout à l'heure et de l'affirmation de soi.
Ouais, effectivement. Mais c'est aussi pour avoir une validation de ses collègues.
Ça ouais. peut.
Ouais, ça faire peut. Un petit mais... sondage ou l'intelligence collective. Ou
tout à fait. De... Okay. Ça peut, voilà.
Le délégatif, du coup, c'est quelqu'un qui veut rendre autonome les gens, qui n'est pas trop présent et qui fait le relevé des compteurs, c'est ça ?
Ouais, ça va être effectivement celui qui... alors, généralement, c'est plutôt adapté à des collaborateurs qui sont complètement autonomes. Et il va fixer les objectifs et effectivement, à la fin, normalement, il est censé quand même faire un feedback et un contrôle. Mais comme je disais tout à l'heure, en France, on n'est pas très feedback et contrôle parce que dès qu'on est sur du feedback et contrôle, ça rappelle un peu le spectre de l'école où tu t'es évalué, forcément, tu vas avoir un mauvais retour. Non, un feedback, c'est à la fois aussi bien constructif avec des retours positifs que éventuellement des axes de développement.
Attendez où tu as fait quoi et comment je peux te dire quoi.
C'est ça. Et puis, qu'est-ce que tu as bien fait, quoi. Les gens sont très preneurs de ça. Hein. Qu'est-ce que tu as bien fait. Comment tu veux savoir comment tu... Enfin, tu navigues à la vague si tu ne sais pas ce que tu as bien fait aussi, tu vois, pour savoir ce que tu as mal fait. Les deux sont importants, aussi importants.
De quoi tu es fière ?
De quoi je suis fière ?
Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que t'as fait qui te rend fière ?
Je suis assez fière de porter cette gestion des talents qui est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, d'assez peu connu et reconnu. Je suis assez fière d'évangéliser là-dessus, de le porter d'une manière à ce que ce soit beaucoup plus familier à tout le monde et au grand public aussi, hein, parce qu'encore une fois, pour moi, il n'y a vraiment pas que l'entreprise, parce que pour moi, ça reste effectivement la clé. Si tu ne sais pas quels sont tes points forts, si tu ne sais pas où tu en es, c'est compliqué de te projeter sur quoi que ce soit. Donc, pour moi, ça reste vraiment cette clé-là. Et puis, au-delà de ça, bien sûr, je suis fière d'Apostrophe, de cette société que j'ai créée, que j'ai développée, des partenaires que j'ai, avec qui on travaille en pleine confiance et toute fidélité depuis maintenant 14 ans. Donc ça, c'est une belle aventure humaine partagée. Alors, pas partagée au niveau de l'association, comme je le disais, mais partagée de notre manière. Et ça, c'est vraiment chouette aussi. Voilà, parce que c'est un enrichissement au quotidien de travailler avec ces partenaires-là qui sont d'une grande qualité. Donc ça, c'est chouette.
Cool. C'était le mot de la fin ?
Ouais, je crois.
Super. C'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, eh ben, merci, ça fait plaisir. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Vous pouvez suivre la sortie des nouveaux épisodes. Il suffit de suivre la page LinkedIn Bifo ou de taper BFOW dans Google ou sur toutes les plateformes de streaming. Vous nous trouverez. Votre futur n'est jamais créé à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Virginie.
Merci Aurélien.